I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, c'est Patrick, j'espère que vous ne m'avez pas oublié. Je vous fais un petit coucou avant de lancer l'émission, une émission un petit peu spéciale encore. Un petit coucou de pré-intro parce que je suis en train de faire le montage. Fanny est en vacances, donc vacances bien méritées évidemment. Et c'est moi qui fais le montage, publication, tout ça. On va voir si je me souviens encore comment ça marche. Mais par contre, c'est pas moi qui fais l'épisode. J'ai filé les clés à JK et qui a décidé, contre mes recommandations, d'inviter Dany et également Eska, pour compenser le Dany maléfique. Mais du coup, j'étais en train de commencer le montage, de faire le montage, et je me suis dit, oh, je ne peux pas résister à l'idée de vous envoyer un petit bisou malgré le milieu des vacances. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul épisode spécial. Hein. Vous avez eu un épisode il y a 2 semaines sur l'histoire, la représentation historique dans le jeu vidéo, que beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient beaucoup apprécié. La semaine dernière, on a eu un portrait de Trinity. Et là aussi, je crois que ça a pas mal plu. Et du coup, j'espère que vous serez contents parce que la semaine prochaine, je suis là pour l'émission, mais la semaine d'après, c'est mes super vacances avec ma femme à Paris, une semaine de vacances sans les enfants, j'en reviens même pas. Et on a du coup un autre épisode spécial et vous allez voir que c'est l'introduction à une personne que vous allez un petit peu plus entendre dans les mois à venir, puisque vous avez peut-être remarqué que Dany est un petit peu moins présent dans l'émission, il a un petit peu moins de temps et du coup, on a quelqu'un qui va prendre un petit peu sa place et je pense qu'on y gagne au change, mais vous découvrirez ça donc dans 2 semaines. En attendant, la semaine prochaine, c'est moi qui reprendrai les clés, peut-être un épisode un petit peu plus court que d'habitude. Et voilà, si vous n'avez pas entendu les épisodes précédents, je vous recommande vraiment d'aller les rattraper si vous étiez en vacances ou quelque chose comme ça. Et si vous partez en vacances bientôt, je vous souhaite d'excellentes vacances aussi. Et maintenant, je vous laisse entre les mains expertes de JK et d'Eska et aussi celle de Dany parce que j'ai pas le choix. Je vous fais de gros bisous depuis mes vacances, semi-vacances qui se terminent. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous et voilà un nouveau rendez-vous jeu d'été.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, votre rendez-vous hebdomadaire autour de l'actualité du jeu vidéo. Je suis JK, hein, vous me connaissez sans doute si vous écoutez régulièrement l'émission. Et comme un peu comme tous les ans maintenant, tous les étés, je prends la main sur l'émission pendant que Monsieur Patrick Béja ose prendre des congés, donc du coup, moi j'en profite pour faire n'importe quoi et donc présenter cette émission. Mais je pense que voilà, mes chroniqueurs invités vont essayer de rendre cette émission un peu plus intéressante. Et je sais que ce sera le cas puisque j'ai le plaisir d'accueillir Escarina pour ce numéro. Salut.
Salut Jika.
Ça va?
Ouais, ravi d'être là. Tu sais, j'ai un peu l'impression que c'est comme quand les parents sont partis et qu'on fait une fête à la maison sans qu'ils soient au courant.
Ouais, c'est ça exactement. Donc, on va essayer d'en ranger à peu près avant, on va essayer de rendre l'appartement à peu près propre, mais on sait qu'on va se faire griller de toute façon. Donc, bon, voilà, on a tous connu ça. Donc, Eska, toi, t'es une habituée aussi. On va être entre habitués pour ce numéro. Hein. Il y aura pas d'invité surprise ou quoi que ce soit, mais voilà, on est entre nous. Puisqu'il y a aussi ce cher Dany. Daniel, comment vas-tu?
Hello, très bien. Ouais, j'ai entendu dire en fait que Patrick ne hostait pas cet épisode-là, donc je me suis dit, oh, c'est l'opportunité de revenir et de faire un super épisode avec des gens que j'aime beaucoup. Voilà.
Maintenant, si Patrick est là, tu ne viens plus, c'est ça. Hein,
c'est exactement pour ça.
Parce qu'on s'était dit effectivement. Bon voilà. Bon bref, donc il en a pris pour son grade. Hein, on l'embrasse très fort. On sait de toute façon qu'il va forcément nous écouter. Alors, mais sûr, là, on n'est pas en direct ni rien, donc on fait une émission voilà sans pression, enregistrée en amont. Il y a quand même de l'actu, hein, mine de rien. C'est l'été, c'est vrai que c'est assez calme hein, au niveau de l'actu en général l'été. Mais justement, pas plus tard qu'hier, donc au moment où on enregistre, il y a eu un papier assez complet de Jason Schreier sur GTA 6 qui est sorti sur Rockstar avec pas mal d'informations. Donc on va en parler, très rapidement. Et ensuite, on va se concentrer sur le succès surprise de l'été, qui n'est autre que Stray, le fameux jeu où on incarne un petit chat trop mignon avec un sac à dos dans une ville un peu cyberpunk. Donc on y a tous joué autour du micro, autour de cette table virtuelle. On va vous dire ce qu'on en pense et puis on va un petit peu revenir sur le succès aussi du jeu qui est vraiment, comme je le disais, un succès presque inattendu. On aura aussi nos jeux du moment. En dehors de Stray, en vrac, on va vous parler de Inside, de Inside, oui, le Inside qui est sorti il y a 5 ans maintenant, mais on va en reparler. on va parler de Madison, de Sniper Elite 5, de 4 Café Manager. 4 Café Manager, ça, Dani,
j'ai
tu m'en parles. Ouais, je sais pas ce que c'est. Donin Bermuda. En fait, les noms de tes jeux, Iscarina, je suis en train de les lire, ils sont incroyables. Donin Bermuda et 4 Café Manager, je ne sais pas ce que c'est.
Je vous avoue que j'en connais aucun de cette liste, à part Inside, évidemment, ouais. Qui était.
C'est des jeux qui sont pour les vacances.
Ah bah ouais, c'est clair, ça donne envie. Et toi, Daniel, tu veux nous parler aussi de Live Alive, on dit, oui, Live Alive, le fameux rétro RPG qui est sorti sur Switch il n'y a pas très longtemps. Mais voilà, écoutez, je vous propose qu'on se lance tout de suite dans le cœur de l'émission. Peut-être qu'il faut... Alors, je vous avoue que je ne sais pas du tout, j'ai pas eu d'instruction là-dessus. Est-ce que je dois remercier les Patriotes, les nouveaux Patriotes? Peut-être que oui, peut-être que non. Alors peut-être que ce sera coupé au montage, je ne sais pas. Mais en tout cas, je lis ce qui est écrit. Hein. On remercie les nouveaux Patriotes de Patrick, donc sur le Patreon du rendez-vous jeu. Vous pouvez évidemment soutenir l'émission hein, si vous estimez que ça vous apporte quelque chose et que vous avez envie de donner 1, 2, 3 euros, peut-être même plus par émission. On remercie les producteurs, les nouveaux producteurs Lancelot, Dadvizar et Steph Sinalco. Merci beaucoup, vous êtes absolument généreux et formidable. Donc maintenant, on va se lancer donc dans le gros de l'émission avec notre premier sujet, qui n'est autre quand même que GTA 6. Alors, GTA 6, évidemment, jeu fantasmé depuis des années. On sait que le jeu est en développement depuis longtemps. Rockstar l'a confirmé, hein, qu'un nouveau GTA était en développement. Jusqu'à présent, en fait, on savait finalement peu de choses sur GTA 6, si je me trompe pas. Ça n'empêchait pas évidemment que énormément de médias balançaient des rumeurs quasiment toutes les semaines sur GTA parce qu'il y a forcément ça fait beaucoup de buzz. Mais hier, ce qui s'est passé, c'est que sur Bloomberg, donc le fameux Jason Schreier qu'on connaît bien entendu depuis un petit moment, qui est un journaliste d'investigation spécialisé dans l'industrie du jeu vidéo, qui a sorti notamment des livres sur l'industrie qui sont passionnants, hein, que ce soit Blood, Sweat and Pixel ou Press Reset, que ce sont deux livres que je vous conseille d'ailleurs si vous intéressez aux coulisses de l'industrie. Et il avait sorti il y a, je sais plus, peut-être 2-3 ans, une longue enquête sur Rockstar, assez édifiante, hein, qui racontait comment est-ce que la culture du crunch chez Rockstar était vraiment, vraiment, vraiment très présente et les gens travaillaient comme des forcenés 100 heures par semaine. Enfin, c'était terrible. Et là, il a sorti un nouveau papier, mais finalement plutôt positif sur Rockstar, et ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Hein, et je pense pas que Rockstar ait payé Jason Schreier pour écrire un article comme ça, puisque en fait, c'est à la fois un article qui donne beaucoup de détails sur GTA 6 qui ont l'air assez fiables et aussi beaucoup de détails sur la nouvelle culture d'entreprise qu'a essayé de mettre en place Rockstar depuis quelques temps pour améliorer le quotidien de ses employés. Alors d'abord, peut-être pour résumer un petit peu ce qui se dit dans l'article. Alors c'est un article qui est sur Bloomberg qui est pas très très long, hein, c'est pas une énorme enquête, mais il y a quand même pas mal d'infos. Ce qui est intéressant sur ce qu'on apprend sur GTA 6, c'est que enfin, pour la première fois, on va quand même pouvoir incarner un personnage féminin dans GTA, puisque il a l'air d'être sûr de lui, hein, qu'on pourra incarner une femme donc d'origine latino, mais en fait, ce sera un duo de personnages après dans GTA 6 qui est apparemment inspiré de Bonnie and Clyde. Donc on peut imaginer évidemment un homme et une femme qui sont des gangsters et dont une femme d'origine latino. Donc ça, c'est pareil, c'est quasiment une première parce qu'en fait, c'est Kotaku, je crois, qui a sorti un papier ce matin qui a rappelé qu'en fait, dans les tout premiers GTA, on pouvait, donc je parle de ceux en 2D, enfin en vue du dessus, on pouvait choisir d'incarner une femme ou un homme, ce qui n'avait strictement aucune incidence. Parce que c'était littéralement des coquilles vides à l'époque, dans en tout cas ces premiers GTA. Donc une femme d'origine.
Je suis pas sûr que tu voyais vraiment. Graphiquement,
il y a une grande différence de mémoire.
En vue du dessus, je pense qu'il devait y avoir des cheveux un peu plus longs, tu vois, vaguement comme ça. En fait, t'avais des portraits que tu pouvais choisir au début, tu pouvais choisir d'incarner une femme. Mais on va dire que techniquement, c'est pas la première fois que tu peux incarner une femme dans GTA, même si, bon, voilà, ça va tout changer parce qu'on aura enfin un personnage féminin. Parce que c'est vrai que Rockstar, jusqu'à présent, les jeux Rockstar, enfin les GTA sont très très bons en général, sont très très bien écrits, mais les personnages féminins, ça n'a jamais été vraiment leur fort. Et là, dans celui-là, le fait qu'on puisse incarner déjà un personnage féminin, ça, je pense que ça va changer pas mal de choses au niveau du point de vue du jeu. Donc ça, c'est chouette. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Hein, je peux vous laisser la parole avant de dérouler la suite.
Ah, moi, j'ai des sentiments mitigés en fait là-dessus. Déjà, bon, moi, personnellement, en termes de gameplay, j'ai du mal à m'identifier avec un personnage féminin. Plutôt, évidemment, un mec super beau, baraque, puissant et dangereux, comme je le suis dans la vie, quoi. Mais si on met ça à côté, en fait, ce que j'espère vraiment, c'est qu'ils arriveront à faire un personnage féminin crédible et que ce soit pas une caricature. C'est toujours un risque et parce qu'en fait GTA tout se base sur l'écriture en fait la richesse du jeu c'est pas tellement le gameplay pour moi plutôt que l'immersion dans l'histoire et la façon dont elle progresse on verra ce que ça donne en termes d'écriture mais je pense que c'est là où je les attendrai au tournant.
Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Tu disais qu'il n'y avait pas eu vraiment de personnage féminin marquant chez Rockstar, c'est pas forcément leur force. Dans le dernier Red Dead, il y avait Sadie Adler qui était un petit peu sortie du lot. Mais même comme ça, hein, on reste quand même dans des personnages, je trouve, qui sont assez clichés, assez masculinisés. Et dans les premières images, quoi. Alors je sais pas si dans le lien de l'article Gamekult que tu nous as donné, il y a une image avec quatre personnages. Je sais pas si c'est un artwork officiel des vrais personnages qu'il va y avoir dans le jeu ou pas.
À mon avis, c'est des personnages issus de GTA Online.
Ah, d'accord.
Parce que dans GTA Online, tu peux incarner une femme. Dans GTA Online, il n'y a aucun souci comme ça. Mais bien sûr, c'est comme je disais tout à l'heure, ce sont des coquilles vides. Hein.
Ouais.
Voilà, c'est écrit dans l'article en légende, c'est marqué personnage issu de GTA Online.
Il n'y a aucun artwork officiel sur GTA 6
qui ont fuité. Hein. C'est certain, donc voilà.
Ouais, parce que tu vois, même comme ça, on voit que les représentations féminines, elles sont assez clichés. Hein. C'est soit des femmes très masculines, très badass, ce qui est pas pour me déplaire, soit dit en passant, soit, ouais. On se rappelle, hein, les anciens artworks des vieux GTA, où c'était des bimbos...
Ultra sexualisés, ouais.
Donc...
Mais alors moi je suis quand même je suis assez confiant dans le sens où ils ont quand même été notamment via GTA 5 et même t'as raison Red Dead moi je pensais à Bonnie aussi dans Red Dead 1 qui était un super perso je pense que s'ils décident vraiment enfin de faire un personnage féminin qu'on peut incarner je pense qu'ils vont le soigner tu vois je pense que ça va être ce sera pas un cliché il y aura ce sera un personnage complexe intéressant comme l'ont pu être les personnages des précédents GTA notamment dans GTA 5 ou GTA 4 donc je suis assez
Personnages secondaires quand même. Donc tu vois, il y a quand même un fossé entre, à mon avis, entre un bon personnage secondaire qui se tient et qui est intéressant et arriver à jouer un personnage avec lequel finalement t'as envie d'accrocher pour découvrir son histoire et l'évolution en fait de sa personnalité au cours des, enfin je sais pas, dizaines d'heures de gameplay qu'on attend.
Ouais, non, c'est évident. Et puis ce côté Bonnie and Clyde, comme il le citait dans l'article, peut être super intéressant. Mais il faut voir en plus, il peut y avoir enfin peut-être aussi un peu d'émotion amoureuse en fait dans parce que Bonnie and Clyde ça peut être un couple problématique et ça peut donner quelque chose de très fort en termes d'émotion. Enfin, ce qui est pas tout le temps le fort. Enfin, je dis ça. Moi, j'ai pleuré comme un fou à la fin de Red Dead Redemption 1. Mais
parce que les deux étaient assez marquants hein, quand même.
Ouais, alors le jeu, j'ai déjà fini, je l'avoue, donc je suis pas allé jusqu'au bout, parce que...
Voilà, c'est un passage poignant, hein. je te conseille d'avancer un jour.
J'imagine, ouais, faudrait que je le refasse, parce que moi j'ai des vrais soucis avec Red Dead 2, mais ça c'est personnel. Mais oui, donc voilà, ce serait intéressant de voir comment ils vont aller là-dedans, si c'est un couple. Alors, peut-être que ce sera même un couple de femmes, on sait jamais, hein. Je sais pas s'ils iront jusque-là, mais je pense que c'est trop risqué en termes de marketing, malheureusement, d'avoir que des personnages féminins dans un GTA, quoi. Comment ?
Ouais, je pense que t'en demandes trop.
Ouais, non, là, je pense que j'en demande un peu trop, effectivement. Alors, les autres infos qu'il y a eu sur ce fameux GTA, c'est qu'en fait, au tout début, donc, en fait, le travail sur GTA 6, aurait commencé dès 2014, donc vraiment juste après, ce qui est logique, hein, juste après GTA 5, hein, et je pense qu'il y a une petite équipe, comme c'est souvent le cas dans les studios de jeux vidéo, il y a une toute petite équipe au début qui va esquisser les contours du projet, puis l'équipe va grossir. Et au tout début, en fait, ils voulaient faire un immense terrain de jeu et qui s'est réduit au fur et à mesure, et finalement, on partirait sur Miami et ses environs. Alors, Miami et ses environs, si vous connaissez GTA, forcément, ça vous fera penser à Vice City, qui se passait à Miami dans les années 80, qui s'inspirait clairement de Scarface. Alors, il n'y a aucune confirmation de l'époque, hein. On ne sait pas du tout quand se passera ce jeu. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que apparemment Rockstar prévoirait en fait de mettre à jour continuellement le jeu pour le solo, en rajoutant des missions et même des villes. Et ça, ce serait une vraie première. Moi, du coup, la question que je me pose, c'est quand tu dis ça, est-ce qu'il est-ce qu'ils sont pas en train d'essayer de faire une sorte de game as a service très poussé. Alors GTA Online est déjà un jeu game as a service, mais faire un game as a service solo en fait tel qu'ils ont peut-être toujours voulu le faire en rajoutant des villes etc, c'est hyper ambitieux et apparemment cette méthodologie donc de rajouter des villes au fur et à mesure permettrait aussi en interne chez Rockstar de limiter le crunch puisque bah, les gens auront des délais beaucoup plus larges. Je sais pas ce que vous en pensez de ça.
Mais du coup, est-ce que ça veut dire que le contenu de base du jeu sera moins important que le contenu de base des jeux précédents ?
C'est pas dit. Il y a rien qui confirme ça. Déjà, a priori, je les vois mal faire une map plus petite, par exemple, que celle de GTA V, tu vois, qui était très grande déjà, mais.
Est-ce que du coup,
Ça dépend. Ça dépend peut-être aussi du nombre de fillers qu'il va y avoir pour meubler et aménager cette map. Et je pense que si c'est une map qui est plus, peut-être, enfin, ou une histoire, un mode histoire qui est un peu plus, qui est aussi long qu'avant, mais avec moins de, peut-être, de side quests ou de trucs inutiles à faire qui vont venir petit à petit, ou alors qui vont être intégrés peut-être dans une deuxième histoire, dans une deuxième ville, etc. Ça peut fonctionner, hein.
Ouais, parce que sinon je vois pas trop comment limiter le crunch en donnant le même contenu qu'avant et en donnant encore plus par la suite.
Ouais.
Ou alors ils ont revu complètement leur méthode en interne de management, mais.
Alors c'est ça aussi, c'est qu'en fait ils ont et là on va arriver peut-être au deuxième aspect de l'article de Jason Schreier qui explique en fait que la culture d'entreprise a quand même beaucoup évolué depuis quelques temps. C'est vrai qu'il y a Dan Houser qui a quitté la société et je pense qu'il participait largement à ce côté au crunch et même à une ambiance un peu pas terrible on va dire au sein de Rockstar. Et en fait, depuis, alors apparemment, ils ont embauché beaucoup de gens et beaucoup de producteurs pour justement aider à mieux gérer les plannings, à ce que ça se passe mieux. Et en fait, ce qui ressort, en fait, comme d'habitude, Jason Schreier, il a parlé avec de nombreux employés de Rockstar, et tous ont l'air de dire que l'ambiance et le moral chez Rockstar n'a jamais été aussi bon, même si GTA 6 est un jeu qui prend énormément de temps à développer, qui prend beaucoup de retard, qui est un jeu vraiment de longue haleine, mais malgré tout, il y a un environnement de travail qui a priori est devenu beaucoup plus agréable depuis quelques temps. Et aussi, il y a une culture d'entreprise qui font beaucoup plus gaffe au contenu qu'il y a dans leur jeu. Par exemple, on n'y pense pas forcément, mais il y avait régulièrement des trucs un peu transphobes, un peu homophobes, etc. dans les précédents GTA. Là, ils ont fait attention à éviter ce genre de choses. Pareil pour tout ce qui est se moquer des minorités, etc. Tu vois, c'est un peu plus, ils font plus gaffe à ça. Après, ce qui est intéressant, c'est que Schreier, justement, soulève la question aussi du fait que Rockstar est très connu pour avoir toujours été à des pains un peu vitriol l'Amérique et de se moquer un peu de tout le monde, en fait, de toutes les communautés, etc. Et du coup, il se pose la question, est-ce que, du coup, ça va pas donner un GTA qui est peut-être un peu plus lisse, un peu moins fou, etc. Ça faudra voir quand le jeu sortira, quoi. Donc voilà. Donc déjà, je trouve que voilà, en termes de, il y a beaucoup de choses assez positives qui ont l'air de ressortir de cet article, qui font que voilà, Rockstar a apparemment beaucoup travaillé encore sur GTA. Ils disent que le jeu sortira pas avant 3 ans, donc on a le temps. Et voilà. Donc je vous laisse la parole si vous voulez peut-être voir par rapport à tout ce que je viens de dire.
Ouais, moi, tu vois la chose, enfin, qui m'a marqué là-dedans, en fait, dans tout ce que t'as dit, c'est surtout le fait de virer des blagues transphobes, etc. Je pense que c'est dans l'air du temps et ça s'aligne effectivement avec aussi le changement qu'on a en termes de perception et la façon dont on perçoit les uns et les autres. C'est une bonne chose. Maintenant, je pense que si le risque là-dedans, c'est que j'ai peur que le jeu devienne relativement trop aseptisé par rapport à ce que c'était avant. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. On verra ce que ça donne en termes de jeu. Et peut-être qu'effectivement, on peut clairement vivre y avoir un bon jeu sans avoir des blagues qui ciblent une ou l'autre minorité ou groupe de personnes, etc. Mais comment arriver en fait à rendre le jeu aussi piquant qu'avant sans choquer qui que ce soit.
Ouais.
C'est dur, c'est très difficile comme mode de trouver l'équilibre.
Ouais, il faut trouver un équilibre, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde en prenne pour son grade, c'est là-dedans que c'est pas facile. Après, effectivement, je trouve que dans cette logique, on va dire, d'aseptisation, qui est pas encore confirmée et qu'on n'espère pas, moi, c'est ça qui me dérange aussi un petit peu, c'est le fait de rajouter un personnage féminin quand ça a du sens pour l'histoire, c'est très bien de le faire. Maintenant, si c'est juste pour faire, alors je sais pas si t'as un terme, il y a le greenwashing pour les entreprises, est-ce que tu as le féministe washing?
Le woman washing.
Le woman washing et qui rajoute juste un personnage féminin pour aller dans le même sens que, bah, faut voir ce que ça donnera, quoi.
Et est-ce que ça apporte quelque chose de jouer une femme à l'histoire? Est-ce que c'est vraiment un argument ou quelque chose de fort? J'espère que oui. Ça, si c'est le cas, ça va être génial. Si c'est juste, tu peux copier-coller la femme et la remplacer par un homme et ça change rien, là, ce serait un peu dommage.
Tu vois, ce qu'il écrit dans l'article, je vais le citer, c'est un Rockstar plus doux et plus gentil peut-il encore produire des jeux de la même qualité que ceux qui ont fait la réputation du studio? Certains employés n'en sont pas sûrs. Et selon de nombreux employés, le moral de l'entreprise n'a jamais été aussi bon. Mais voilà, c'est ça qui est assez paradoxal. Mais bon, là, c'est vrai qu'on le rappelle, on est sur beaucoup de suppositions. Même si l'article de Jay Schreier est très, très complet et s'il y a bien un gars dans l'industrie auquel on peut faire confiance, c'est lui. Donc, je pense qu'on est à peu près sûr que le personnage féminin, s'il le dit, ce sera probablement vrai. Le reste, on verra. Je vois pas non plus Rockstar totalement se renier en fait par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il a été. Et moi, ce que je retiens de tout, et finalement le truc le plus positif, c'est que l'ambiance générale au sein du studio est que c'est quand même vachement amélioré quoi. Il y a plus le côté à la fois le crunch, à la fois les blagues sexistes, le côté boys club qui pouvait y avoir par moment dans le studio. D'après ce qu'on lit, d'après ce qu'il écrit. C'est quelque chose qui a changé, donc c'est un environnement de travail plus agréable, plus sain, et ça c'est super.
Ouais,
après, à quoi va ressembler GTA 6, ça je pense qu'on a encore le temps avant de savoir exactement à quoi ça va ressembler quoi.
Moi, je dois vous avouer que mon personnage préféré en fait dans le 5, et c'est la raison qui m'a fait continuer le jeu jusqu'au bout, c'était Trevor. Il m'a fait beaucoup beaucoup rire. Alors oui, effectivement, il est extrême et honnêtement, c'est un gros con. Hein. mais il a donné un côté que j'attendais pas au jeu. Et c'était le premier GTA que j'ai terminé. Hein. J'ai joué au super vieux, évidemment, sur PC il y a très 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 longtemps. J'ai joué un tout petit peu aux versions sur PlayStation 2 quand elles étaient sorties, j'ai pas du tout accroché. Et Trevor m'a fait rester jusqu'au bout. Maintenant, ouais, c'est sûr que je comprends qu'il puisse choquer, hein.
Ouais, bien sûr, mais c'est un personnage marquant. Mais encore une fois, je pense qu'ils peuvent trouver l'équilibre entre un personnage marquant complètement fou, etc. Et ça peut très bien être un personnage secondaire, tu vois, aussi. Et toujours un autre personnage qui va être le contre-pied en fait. Et c'est déjà ce qu'ils faisaient globalement souvent. Hein. Mais un personnage qui va être le contre-pied de ce personnage ordurier ou fou, etc. Avec quelque chose de beaucoup plus intéressant. Moi, j'ai envie de leur faire confiance, tu vois, là-dessus. Et je suis pas trop inquiet, quoi.
Parce qu'à pareil, avec Red Dead. Je pense qu'en termes d'écriture, c'est réussi quand ça ne glorifie pas les comportements répréhensibles, mais que ça fait réfléchir les gens qui y jouent. J'ai l'impression que ça allait plutôt dans ce sens-là, finalement, les précédents GTA. Donc,
Ouais, malgré tout, bien sûr. Après, c'était toujours un point de vue très masculin, etc.
Oui,
et c'est vrai que ça manquait de personnages féminins forts. Mais encore une fois, dans Red Dead 2, même si j'ai pas été jusqu'au bout, on sentait déjà qu'il y avait un effort de fait là-dessus. Il y avait des personnages féminins super intéressants.
Il y avait un personnage féminin qui était exceptionnel, hein.
Donc c'est pour ça ça va malgré tout dans la continuité et si en plus ça permet d'avoir un GTA 6 sans que les développeurs et les équipes se tuent à la tâche, c'est quand même mieux.
Et surtout si la culture d'entreprise aussi s'améliore beaucoup, que les employés sont satisfaits, finalement rien que ça déjà c'est un changement extrêmement positif. Ensuite la qualité du jeu, on verra quand il sortira, mais déjà savoir que les gens sont satisfaits et contents, c'est le principal.
Après ils ont des
exemples de grands studios qui sortent des grands jeux tout en respectant leurs employés, ça existe hein, quand même. Pour moi, c'est pas une excuse.
Non.
Donc, faut pas se reposer là-dessus.
C'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Effectivement, il y a des articles chez Naughty Dog, c'est pareil, est très connu pour ça. Mais j'ai l'impression, par exemple, chez Ubisoft, par exemple, bon, après, c'est parce qu'ils sont très nombreux, ils ont 30 studios qui bossent sur le même titre, mais chez Ubisoft, j'ai l'impression qu'il n'y a pas, enfin, en tout cas, ça ressort moins, il n'y a pas ce côté crunch et extrêmement difficile, alors que leurs jeux ont une ampleur absolument délirante sur, quand même assez régulièrement. Donc, à voir. On va réentendre parler sans doute de GTA 6 plus d'une fois d'ici la sortie. Et voilà. Donc, on se donnera rendez-vous dans le rendez-vous jeu. Je sais pas, ce sera le combien. Ce sera le numéro
652
pour la review de GTA 6. Je vous propose qu'on passe au sujet suivant si vous êtes OK sur GTA 6.
Yes.
Allez. Donc, on va parler en deuxième d'un jeu. qui a une ampleur beaucoup plus petite que GTA 6, hein, mais qui lui est sorti et est disponible, et qui a été une véritable surprise, qui est une véritable surprise. On va vous parler de Stray. Alors Stray, mine de rien, ça fait un bon moment qu'on en entend parler. Hein. C'est un des tout premiers jeux qui a été montré, si j'ai pas de bêtises, au moment du reveal de la PS5. Ça faisait partie, en tout cas, du line-up PS5 qui était régulièrement mis en avant par Sony, notamment dans les State of Play. C'est le premier jeu d'un studio qui est basé à Montpellier, dont j'ai oublié le nom, et là j'ai honte. En plus, j'avais ouvert le fichier. Je sais plus si vous l'avez.
Annapurna.
Annapurna, c'est l'éditeur.
C'est l'éditeur.
Blue 12 Studio, qui est un studio donc basé à Montpellier dans le sud de la France. Et alors vous en avez probablement entendu parler. Hein, donc il est sorti sur PS5 exclusivement et sur PC, enfin en exclu console pardon. Et il est sorti aussi sur Steam sur PC. Il était gratuit à sa sortie pour les membres PlayStation Plus. Là, je pense que ça va peut-être changer si vous êtes abonné PS Plus. Donc, faut vite le récupérer si vous avez une PS5 et un abonnement. Je peux le pitcher rapidement, hein, si vous voulez, avant qu'on en parle un peu plus. C'est donc un jeu où on incarne un chat, un petit chat, un vrai chat, un chat très réaliste, hein, qui ne parle pas, qui juste miaule, comme un chat classique. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il est comment?
Non, j'allais dire, je pense que tu peux t'arrêter là, t'as déjà vendu le jeu, on est d'accord.
C'est clair que le jeu. Non, mais vous vous souvenez des premiers trailers qui sont côté diffusés? Enfin, je veux dire, il y avait un buzz autour du jeu parce que un chat dans une ville avec des robots, enfin voilà, déjà t'avais envie d'y jouer, quoi. C'est un high concept ultra simple mais ultra efficace, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et donc on incarne ce petit chat qui au tout début en fait est avec une soit sa famille soit ses amis, on ne sait pas ce qu'on sait, enfin avec un groupe de chats, et via un malencontreux accident il se retrouve à tomber en fait de la surface vers les profondeurs d'un ravin, quelque chose comme ça, et se retrouve dans une ville sous terre qui est bloquée sous terre, qui est peuplée intégralement peuplée de robots, et des robots mais des robots humanoïdes, des robots qui en tout cas veulent reproduire le comportement humain et une société humaine. On comprend rapidement, enfin même dès le début, hein, qu'on est dans un monde post-apo où a priori l'humanité a disparu et il ne reste plus que des robots. Et à partir de là, bah, on explore en fait cette ville. Alors c'est pas un open world, hein, puisque c'est plutôt une succession de plusieurs zones plus ou moins ouvertes, avec entre deux des missions un petit peu plus linéaires, avec qui mélange plateforme et exploration et un peu d'action. Et le but, c'est tout simplement très simplement, c'est de pouvoir remonter à la surface pour retrouver sa famille et aussi aider les robots qui, on comprend assez rapidement, sont coincés sous terre et qui aimeraient bien, en tout cas certains, aimeraient bien voir ce qui se passe à la surface. À partir de là, voilà, on est sur un jeu comme ça et franchement, j'ai envie de vous laisser la parole parce que moi, tout ce que je vais vous dire, c'est que c'est un jeu qui dure quoi 5 heures. Moi, je l'ai fait en 5 heures, ouais. Mais c'est 5 heures de plaisir absolu. Et enfin, moi, j'avais le sourire aux lèvres pendant 5 heures, alors que c'est un jeu qui est finalement assez simple en fait en termes de gameplay. Je sais pas vous comment vous avez vécu votre expérience sur Stray.
Tu veux commencer, Dany?
Eh ben, écoute, très bien. Écoute, moi, bon, déjà, il n'y a pas énormément de nouveaux jeux qui sont sortis ces dernières semaines, qui sont, disons, très excitants pour moi. Et Stray, c'était un peu l'ovni et le jeu que j'attendais sans trop l'attendre. Et c'était une très très bonne surprise. Alors effectivement, il n'est pas extrêmement long, ce qui pour moi est une bonne chose. Je pense que la durée, elle est pile poil ce qu'il faut pour que le jeu soit intéressant, qu'on puisse s'engager dans l'aventure. Et c'est super agréable en termes de gameplay, c'est sympa, il y a des petites énigmes pas extrêmement challenging, difficile, etc. Et ça permet d'avoir en fait une progression dans l'histoire qui est sympa, agréable, et je pense que c'est entre 3 et 5 heures de jeu qui sont extrêmement plaisantes.
Ouais, voilà, c'est vrai que tu t'as résumé un petit peu ça. Est-ce qu'il y a toi pareil, t'as le même avis?
Oui, alors effectivement, moi comme vous, je l'attendais depuis qu'il avait été annoncé, mais on avait eu, je sais pas si vous vous rappelez, une espèce de petite douche froide il y a quelques semaines quand il me semble que c'était, alors je sais plus pendant quel salon, il y a des journalistes qui avaient posé les mains sur le jeu et qui avaient fait des premières reviews un peu inquiétantes en disant que c'était pas forcément le jeu qu'on attendait, etc. Donc je savais pas à quoi m'attendre. Et en fait, j'ai attendu de voir les retours très positifs de tout le monde pour quand même passer à la caisse. Et moi, j'ai adoré, quoi. Je me suis, enfin, moi, l'ambiance de jeu, déjà, le design, le chara-design, la musique, au global, ouais. Les choix artistiques faits autour de ce jeu, je les trouve assez incroyables. C'est pas des choses jamais vues. Je trouve qu'il y a un mélange de plein de d'influences. Enfin, on retrouve même du Half-Life, je trouve, un petit peu dans certaines ambiances.
Ouais.
Moi, je me suis retrouvée vraiment plongée là-dedans. Les personnages robots, mais je les trouve incroyables d'un point de vue chara-design. Je trouve que c'est plein de, ça fait un peu penser à du Chappie aussi, tu vois. Enfin, il y a vraiment beaucoup de sensibilité dans ce jeu. Moi, je pense que c'est vraiment ça qui m'a plu, c'est que c'est un jeu avec une âme, en fait. Ça nous raconte une petite histoire qu'on a déjà vue mille fois. Hein. Enfin, je pense qu'à partir du moment où tu t'as joué 5 minutes, tu sais comment le jeu va se finir. Il n'y a rien d'extraordinaire dans le scénario. Mais je trouve que c'est un jeu qui est généreux. Tu sens qu'il y a vraiment de l'amour dans ce jeu. Et moi, j'ai juste adoré, quoi, la musique, toute l'histoire est mignonne comme tout. Et j'ai adoré. C'est pas un jeu qui est sans défaut. Je trouve qu'il y a des choses qui sont à améliorer, mais j'ai passé un excellent moment et je suis tout à fait d'accord avec Dany quand il dit que 5-6 heures c'était vraiment pile poil la bonne durée de vie pour un jeu comme ça. Enfin voilà quoi, c'est un petit jeu de l'été comme on aimerait en voir plus, hein, tout simplement.
Ouais, moi c'est vrai que t'as raison et je voudrais revenir un peu sur le tout ce qui est chara design et la façon dont les robots sont traités. On l'a dit tout à l'heure, c'est des robots donc qui vivent comme des humains, donc qui essaient de reproduire le comportement humain, mais ils ont tous, bah, souvent à la place de la tête, ils ont un écran, donc ça leur permet aussi de temps en temps de faire transparaître certaines émotions et du coup ça rend le truc super bien. Il y a un travail sur l'animation que je trouve extraordinaire. Alors même le chat, mais même le, enfin c'est con à dire, mais j'ai jamais vu un chat aussi réaliste qu'on pouvait incarner en plus dans un jeu. Il a une façon de se mouvoir, de il y a régulièrement tu peux, enfin tout bête, mais c'est en fait tu peux faire plein d'actions contextuelles qui souvent ne servent à rien, mais tu peux te frotter aux jambes d'un robot, tu peux même sur certains tu peux t'allonger pour dormir, enfin c'est super adorable. Et en fait, c'est un jeu qui à la fois dépeint un univers très qui peut être très sombre, hein, puisque on est dans cette espèce de ville où il y a pas de soleil, un truc très avec énormément de néons. Alors ils l'ont dit plusieurs fois, ils se sont inspirés de la ville de l'ancienne ville de Kowloon, je crois, en Chine, qui était une sorte d'immense quartier de Hong Kong, qui était une ville avec des milliers, en fait c'était à une époque la ville où il y avait le plus de densité d'habitants par kilomètre carré. Et c'est hallucinant parce que c'est une ville tout en hauteur avec des milliers d'appartements, de fenêtres, etc. C'est une sorte de dédale de couloir et c'est vrai qu'ils se sont un petit peu inspirés de ça. Apparemment, ça se voit, je pense, dans ce trait. Et en fait, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'il y a chaque robot, en fait, tu peux parler à tout le monde, en fait. À chaque fois que tu croises un robot, tu peux lui parler. Alors, il y en a, ça va être juste une petite phrase à la Zelda, tu vois, et c'est tout. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment hyper travaillés. Et en fait, chaque rencontre a son importance, puisque on a l'impression qu'ils ont vraiment fait en sorte que chaque robot croisé a son caractère. Est vraiment incarné.
Tu sais que pour répondre à ça, ne serait-ce que quand tu t'approches d'un robot la première fois, le mot qui est écrit au-dessus du bouton d'action, c'est rencontrer.
Ouais, c'est vrai.
Rien que ça a du sens, en fait, je trouve.
Ouais, t'as raison. Oui, c'est vrai que c'est ce côté très humain. Et alors que toi, t'es juste un petit chat. Alors, ce qui est intéressant, on l'a pas dit, c'est que assez rapidement dans le jeu, tu rencontres une sorte de drone intelligent qui est une sorte d'intelligence à la fois une intelligence artificielle et un drone qui t'accompagne, qui va servir pour plein de choses, notamment qui va servir de traducteur, parce que les robots parlent avec un langage qui leur est propre. Toi, t'es un chat, donc évidemment, tu peux pas leur répondre. Mais du coup, le robot va te permettre de traduire et régulièrement va servir aussi dans le gameplay à pirater des portes, à faire des choses comme ça, donc c'est vraiment il est indispensable. Et pareil, t'as une relation avec lui qui se noue et t'as certaines révélations intéressantes qui se fait autour de ce petit robot qui est vraiment super touchant, en fait, et je trouve que ouais, ça marche bien. En fait, régulièrement, t'as des petits moments d'émotion, souvent très simples, très très subtils, tu vois, très ils en font pas des caisses, mais c'est appuyé par la musique. Tu l'as cité tout à l'heure, Escarina. Je trouve que la musique est extraordinaire.
Ouais, ouais, ouais.
Il y a vraiment un travail sur la musique. Moi, il y a des sonorités un petit peu, des fois forcément un peu asiatiques, mais moi, ça me fait penser, si vous connaissez les films de Takeshi Kitano, notamment les premiers films, les bandes son de Joe Hisaishi, donc
magnifique.
voilà, oui. le compositeur de les Teti Kujiro, ce genre de choses, mais sur un côté un peu plus électronique, expérimental, moins le côté symphonique qu'il peut avoir sur les films de Miyazaki. Ben là moi j'ai vraiment pensé à ça régulièrement, donc c'est vraiment des sonorités formidables. Enfin, je sais pas qui est le compositeur, je me suis pas renseigné, mais je trouve qu'il a fait un super taf.
Aerosend, j'étais en train de regarder, mais je connais pas, ça me parle pas.
Ouais, est-ce qu'il est français ou pas, parce que comme ça, est-ce que c'est fait en interne, je dirais que je me suis pas renseigné, mais la bande son est chouette et voilà, et c'est vrai que c'est un, alors comme tu disais, c'est un jeu qui a des défauts, on peut en parler un petit peu. Bon bah alors, c'est court, pour moi c'est pas un défaut, mais je peux comprendre que certaines personnes soient déçues que ça se finisse en 5 heures, mais l'histoire se suffit à elle-même. Il y a aussi le fait que tu peux pas, enfin t'as pas la liberté que tu peux attendre quand t'es un chat. Tu peux pas, par exemple, le t'as pas de saut dans le sens où chaque saut est scripté. C'est-à-dire que tu peux sauter sur des rambardes, mais c'est uniquement si tu es autorisé à le faire. Alors, assez rapidement, tu te rends compte que tu es quand même assez libre d'explorer un peu où tu veux, mais t'as pas, c'est pas un jeu où tu vas, c'est pas un jeu de plateforme, dans le sens, t'as une liberté totale dans un univers 3D et tu vas où tu veux, quoi.
C'est
assez linéaire. Il y a des petites phases d'action et d'infiltration qui sont pas ratées, mais qui sont un peu assez dispensables, hein, tu vois. C'est pas le truc le plus mémorable du jeu. Et c'est vrai que les niveaux qui sont plus classiques, où c'est vraiment du gameplay pur et de la plateforme, etc. Encore une fois, c'est pas ce que tu vas retenir, quoi. Ce que tu vas retenir, c'est tout simplement la découverte de la ville, la découverte des intérieurs. Le travail sur les intérieurs, il est incroyable, je trouve. À chaque fois que tu rentres dans un appartement, j'étais émerveillé par tous les détails. Il y a une narration environnementale que je trouve formidable, quoi.
Ouais.
C'est vraiment super impressionnant.
Ouais, le level design au global, il est plutôt réussi, hein.
Ouais, c'est sûr, parce que c'est très vertical forcément,
oui.
Et t'es obligé souvent d'observer ton environnement pour savoir où tu dois passer, etc. Donc là, tu vas grimper de fenêtre en fenêtre, de balcon en balcon, sauter sur un tuyau branlant, te casser la figure. Enfin, c'est hyper malin. Et puis c'est super beau. Enfin, techniquement, je trouve que pour un jeu fait par une petite équipe, c'est bluffant en fait de beauté, quoi. C'est vraiment impressionnant, quoi.
Ouais, il y a vraiment un gros travail sur les jeux de lumière, sur les ambiances au global, quoi. C'est pas d'un point de vue purement technique, c'est pas un jeu qui va au-delà de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Mais ils ont réussi, je trouve, à camoufler entre guillemets en mettant l'accent, c'est ça, sur le choix des couleurs, le choix des lumières, des ambiances, c'est vraiment bien fait, quoi.
Ouais, c'est clair, et puis c'est super propre, quoi, ça tourne bien. Moi, je sais que moi en plus, je l'ai fait essentiellement sur le Steam Deck, et sur le Steam Deck, il tourne super bien. C'est vraiment une belle surprise, parce que le jeu est super beau et tourne absolument divinement sur un Steam Deck, donc il est même pas si gourmand que ça. Donc c'est vraiment un chouette jeu. Et donc je voulais en parler un petit peu en sujet principal, parce qu'en plus, il y a vraiment une espèce de code d'amour pour ce jeu là qui est en train de se créer, notamment sur PC. Il a battu plusieurs records. Alors donc c'est un jeu Annapurna, on l'a dit, hein. Et en fait il a par exemple, il a battu un record du plus gros lancement sur PC d'un jeu Annapurna, mais de très très loin. Là par exemple, j'ai un classement dans les yeux. Il y a eu jusqu'à 50 000, en tout cas au lancement il y avait 50 000 joueurs, plus de 50 000 personnes qui jouaient à Stray, et le deuxième jeu Annapurna qui était dans le classement, c'est 12 minutes, qui était à 8 000. Alors 12 minutes étant le Game Pass, peut-être que ça joue un petit peu. Et t'as Outer Wilds derrière qui est à 8 000 joueurs, donc il y a vraiment un succès monstrueux, et c'est clair. C'est clairement le jusqu'à présent le plus gros succès d'Annapurna en termes de vente, en tout cas, quoi. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que le jeu se prend des reviews Steam absolument délirantes. Et ce qui est rigolo, alors bon, peut-être qu'il y a une espèce d'effet de hype, mais en fait, il a des meilleurs reviews Steam. Enfin, en gros, aujourd'hui, actuellement, c'est le jeu le mieux noté sur Steam. Voilà, tout simplement.
Ah oui, c'est incroyable.
Pour un petit jeu comme ça, vendu 25€, qui dure 5 heures, il est mieux noté que God of War et mieux noté que Elden Ring, qui étaient les deux jeux les mieux notés. Donc il y a vraiment une cote d'amour pour le jeu qui est vraiment très très impressionnante. Alors, est-ce que c'est le chat? On va pas se mentir, je pense que le chat joue beaucoup, hein.
Ouais, mais voilà. Je pense aussi que c'est un jeu qui est très accessible, hein, parce que c'est un puzzle game, mais il faut quand même dire que les puzzles sont vraiment pas très compliqués, quoi. Ouais. Tu peux vraiment aller au bout sans trop de problèmes. Moi, j'ai un ami, bah, justement, un des podcasteurs de Super Game Insight, qui a sa fille de 7-8 ans qui a joué et qui a été au bout sans problème. Donc, c'est quand même un jeu qui parle à toutes les générations, au final.
Ouais, oui, c'est ça. C'est un jeu très universel. Je suis d'accord avec toi. C'est un jeu comme je disais, qui va à la fois plaire si vous êtes fan de science-fiction, de cyberpunk, etc. Vous allez adorer l'univers. Et puis, effectivement, tu mets ça sous les yeux d'un petit garçon, d'une petite fille avec ce petit chat. Bah oui, je pense qu'il va vouloir y jouer, quoi. Je sais pas si vous l'avez à fois quoi que
vous. Je pense aussi, à mon avis, s'il est aussi bien noté, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement différent. Donc tu disais le top 2 avant, c'était God of War et Elden Ring, deux excellents jeux, mais finalement, globalement, c'est des jeux d'action-aventure avec une touche de RPG, super, ils sont des excellents jeux, mais finalement, c'est possible aussi donc d'accéder à des très très bonnes reviews avec des styles de jeux qui sont pas forcément toujours extrêmement mainstream et finalement ça, j'espère que ça encouragera d'autres studios à prendre des risques et à faire quelque chose de vraiment différent de ces jeux qui sont plus des formules assez classiques dont on va changer finalement la couche de peinture pour dire voilà écoute God of War 1, God of War 2, excellent jeu mais est-ce qu'ils vont vraiment innover ou changer quelque chose?
Ouais, bien sûr. Après d'un point de vue purement pas objectif, ce serait un peu bête à dire ça, mais God of War et Elden Ring sont quand même des jeux plus importants.
Exceptionnels, bien sûr.
Voilà, Elden Ring, mais
d'ailleurs. Tu t'engages, oui, voilà, Giga, hein, attention.
Ouais, attention, je sens que je vais créer la polémique là, attention. Et j'adore Stray, et Stray sera très clairement, et c'est marrant parce que Elden Ring est sorti il y a 4 mois, mais Stray, je pense qu'il sera dans mon top 5, enfin on verra, mais il sera probablement dans mon top 5 de l'année, tu vois, parce que c'est vraiment une expérience hyper chouette, alors que tu l'as dit, Iscarina, c'est très facile, mais en même temps je trouve que ça donne un côté fluide à la progression qui est super agréable, quoi. T'es pas en train de galérer à pas comprendre ce qu'il faut faire, etc. Enfin c'est vraiment une vraie réussite et encore une fois pour un premier studio je trouve que c'est très prometteur. Moi j'ai hâte de suivre en tout cas ce qu'ils vont faire après parce que c'est commencer par ça, tu vois, c'est un peu comme ce groupe qui sort un premier album absolument pas incroyable, bah ils vont être attendus au tournant pour le deuxième album. Là, j'ai pas d'exemple concret en tête, hein. C'est dommage parce que j'essaie de chercher un groupe qui a sorti un premier album culte. Bon, il y en a forcément plein, mais voilà. Donc ouais, on est tous à peu près unanimes sur ce jeu, hein. Je sais que j'en ai parlé il y a pas longtemps avec mes camarades de ZQSD, c'est pareil. On était tous assez unanimes sur ce jeu. Il y a vraiment un truc, une sorte de charme qui opère, mais immédiatement, quoi. C'est assez fou.
Oui, si ça peut donner un peu de visibilité aux autres jeux édités par Annapurna, c'est chouette aussi, parce qu'il faut quand même dire que c'est quand même un peu un sans-faute. Il y en a certains moins bien que d'autres, mais dans l'ensemble, il y a quand même d'excellents jeux.
Ils ont quand même fait Outer Wilds, Outer Wilds, on va pas revenir dessus. Twelve Minutes était moins réussi, mais bon, au moins, il avait un concept assez intéressant. Edith Finch, évidemment. Edith Finch, extraordinaire jeu. Oui, bah oui, si ça peut permettre de mettre un peu plus en lumière cet éditeur que je trouve formidable, c'est intéressant. Et donc, sachez que vous pouvez remplacer, il y a des mods qui remplacent le chat de Stray par Garfield. sur PC. vous pouvez utiliser Garfield. L'avantage de la version PC, c'est qu'effectivement, et je suis en train de voir, mon Dieu, il y a un mode où le chat est remplacé par Carl Johnson, le protagoniste de GTA San Andreas.
Excellent.
Donc question que j'ai en termes
de mode, c'est si tu joues Garfield, est-ce que tu peux remplacer les pots de peinture par Audi?
Ah ouais. Ce serait excellent. Ouais, ce serait. Bah écoute, je sais pas s'ils ont été jusque là, mais bon, s'il y a des bonheurs qui nous écoutent, ça va peut-être leur donner des idées. Effectivement. Bon, écoutez, je me demande au conducteur que Patrick te fait des bisous, donc peut-être qu'il sait qu'on enregistre, il nous a mis un petit message gentil à mon conducteur. Patrick, on t'embrasse et j'espère qu'on ne dit pas n'importe quoi. C'est le moment de passer quand même. On continue à parler de jeux vidéo, en tout cas à dire les jeux qu'on a aimés ou pas d'ailleurs ces dernières semaines. Je vais laisser la parole. Escarina, c'est marrant parce qu'on a parlé de Stray et C'est vrai que je l'ai pas dit, mais je trouve que Stray et Inside ont des liens assez forts, parce que pour moi c'est un peu la petite expérience, même si Inside est beaucoup plus en termes d'ambiance est un peu plus dark. Je trouve que c'est des expériences, c'est ce qu'on appelle souvent des cinématiques platformers. C'est ces jeux d'action aventure mais très fluides, etc., et assez courts, ce qui est Inside aussi. Donc toi, Inside, tu l'as rattrapé, t'as enfin rattrapé Inside, c'est ça?
Oui, en fait, donc c'est un jeu d'un studio qui s'appelle Playdead et qui a fait deux jeux, donc qui a fait Inside et Limbo. Et j'avais joué à Limbo quand il était sorti sur Xbox, il y a plus de 10 ans maintenant, je crois.
Oh oui, ça faisait partie des jeux à l'époque indie, les jeux indés mis en avant par la Xbox 360. Donc oui, c'était il y a 10 ans, facile.
Ouais. Et alors, j'avais trouvé que c'était un bon jeu, mais j'avais pas trop aimé l'expérience à titre très personnel parce que ça m'angoissait trop. En fait, enfin, ça dégageait une aura vraiment trop angoissante pour moi. Et quand j'ai vu Inside sortir, pour moi, c'était un peu le même délire très très sombre. Et je me suis dit, bon, je vais pas le faire parce que ça va me. Je vais pas apprécier, quoi. Et au final, il y a quelqu'un qui m'a survendu le jeu il y a quelques semaines. Un des développeurs de Young Souls, donc du studio 1P2P, Jérôme, qui nous disait que c'était un de ses. S'il avait une expérience de jeu vidéo à retenir, c'était celle-là. Je me suis dit, allez, quand même, on va essayer. Il était en promo à 1,99€ sur Switch. Autant vous dire que j'avais vraiment aucune raison de ne pas le prendre.
Aucune raison de le prendre, ouais, c'est ça.
Et il a eu raison parce qu'effectivement, c'est un super jeu. Alors, vraiment dans la droite lignée de Limbo, mais je sais pas, c'est peut-être l'âge qui fait que je l'ai un peu mieux vécu. Mais ouais, c'est vraiment un très chouette jeu. On peut pas dire grand-chose, je trouve, sans trop spoiler ou sans. Enfin, pour moi, ce qui m'a aussi fait apprécier l'expérience, c'est que je savais très peu de choses à part l'aspect graphique très noir et blanc et en scrolling 2D que j'avais déjà vu un petit peu partout, et c'est la découverte qui m'a permis vraiment d'apprécier le jeu. Donc ouais, c'est ça, c'est un genre de petit puzzle game, on doit s'échapper de quelque part, je vais essayer d'en dire le moins possible. On joue un petit garçon et on doit fuir, en fait. Donc ça reste quand même assez anxiogène, hein, il faut pas se le cacher, mais voilà, enfin il y a une DA qui est absolument incroyable, et puis enfin moi c'est la fin du jeu qui m'a mis une claque, quoi. Il y a un twist à la fin qui m'a laissé la bouche ouverte sur les crédits de fin, et voilà, je trouve que ça fait, enfin moi c'est un jeu qui me marque, quand tu l'éteins tu continues d'y penser. Pareil, je trouve que le message est pas ultra original, c'est un message qu'on a déjà vu dans 40 000 œuvres différentes, mais la réalisation, il n'y a rien à dire, quoi. C'est une réussite. Pareil, c'est un jeu très court qui se fait en 2-3 heures de mémoire.
Un peu plus quand même, moi, j'aurais dit 4-5, mais bon,
ouais, c'est
quelques bons souvenirs.
Mais voilà, enfin moi je trouve que c'est un jeu qui marque, et c'est comme quand tu vois un très bon film et que tu sors de la salle et que t'es un petit peu sur un genre de nuage, ça m'a fait ce même effet, quoi. En retard sur tout le monde.
Daniel, tu l'avais fait, toi?
Ouais, j'avais joué à sa sortie, donc je m'en souviens plus vraiment. Dans mes souvenirs, il était un peu anxiogène, mais expérience. Oui. Donc c'est un équilibre. Donc ouais, j'avais oublié en fait à quel point il était un peu stressant. Et tu m'as un peu rappelé, Escarina, dans ton expérience, un peu comment c'était. Mais dans mes souvenirs, le ressenti que j'en ai après tout ce temps, c'est que c'était quand même un jeu magnifique.
C'est un grand classique, hein. Et moi le souvenir que j'en ai, c'est que ce qui m'impressionne en fait, c'est que c'est un plan séquence qui ne s'arrête jamais. C'est un jeu où il faut aller constamment vers la droite. Voilà, c'est le jeu où tu vas à droite, tu ne vas jamais en arrière. Et c'est un plan séquence, mais il se passe tellement de choses à l'écran, dans les arrière-plans, dans ce que ça dit de l'univers dans lequel tu es, qui est un univers, comme tu dis, extrêmement extrêmement anxiogène, sans même parler de la fin. Et oui, c'est un grand grand jeu, c'est un grand classique, effectivement. Et si vous l'avez pas fait, effectivement, aujourd'hui, effectivement, vous pouvez le trouver à un prix, à mon avis, de ridicule, un peu partout. Il est sorti en plus sur iPad, il est sorti sur Switch, il est sorti sur PC, sur console. Enfin voilà, il est très facile à trouver. Et pour moi, c'est un jeu qui est bien supérieur à Limbo, par exemple. Limbo, je sais que ça m'avait vite un peu saoulé. Inside, c'est vraiment une formule beaucoup plus aboutie que Limbo, quoi.
Ouais, c'est comme si Limbo était un brouillon d'Inside, parce que c'est vraiment exactement la même chose. Ils prennent un enfant, ils le projettent dans un univers absolument affreux. Et forcément, bah, tu joues un enfant, donc tu n'as aucune défense. Ton seul moyen de t'en sortir, c'est de fuir. Donc, partant de là, ouais, c'est sûr que c'est assez stressant.
C'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que Donner une Bermuda est aussi stressant ou pas?
Parce alors,
que
je ne sais
absolument pas ce que c'est.
Je vais passer beaucoup plus rapidement sur les deux autres jeux. Non, Donner une Bermuda, ouais, Bermuda c'est un petit jeu très coloré, c'est un petit puzzle game. Alors pareil, qui était en promo sur Switch et que j'ai fait. Et on joue un aviateur qui s'écrase sur une île mystérieuse, on va dire. Et en fait, il doit trouver un moyen de s'en sortir. Et donc en fait, c'est des petits tableaux. À chaque fois, c'est des petites îles avec plein de petites choses cachées, et il faut réussir à faire quelques énigmes pour débloquer le niveau suivant. Et c'est très rafraîchissant. Ça aussi, c'est un bon petit jeu de l'été. Visuellement, voilà, c'est vraiment très simple, très mignon, mais je trouve que ça vaut le coup d'être joué quand on cherche un petit jeu sympa pour se détendre. Ouais. C'est assez réussi.
Je suis en train de voir les photos, et effectivement, quand t'as passé 5 heures sur Inside, tu leur donnes une Bermuda, tu respires quand même.
même stress du départ. Hein.
Ouais, c'est ça, ça fait beaucoup plus respirer. Donc, Donner une Bermuda, c'est dispo sur PC, sur console?
Alors, moi, j'y ai joué sur Switch, mais de mémoire, il est dispo sur mobile. Alors, attends, j'ai pas envie de te dire. Ouais, il est dispo sur Xbox One, PC, iOS et Switch.
D'accord, et là je viens de voir qu'actuellement il est en promotion sur Steam, attention, à moins 90%, donc vous le payez 1,67€.
Voilà. Et je crois
donc
que c'est peut-être le
moment,
c'est
le moment d'y aller.
Oui,
voilà, ouais. C'est peut-être le moment d'y aller.
C'est un jeu, bon, okay, c'est 1,99€, très sympa.
Donc là aujourd'hui, Scarina, c'est les jeux pas chers. Voilà, si vous n'avez plus d'argent parce exactement. Que vous êtes parti en vacances, vous partez en vacances, bah vous avez quand même des jeux pas chers. C'est cool. Et ton jeu, c'est alors celui-là, pareil, le nom est génial, Cat Café Manager.
Voilà. Qu'est-ce alors, que c'est est-ce que vous connaissez les bars à chats ou pas? Alors moi, je vis oui, en province, donc je suis sûre qu'à Paris il y en a plein. Et ben voilà, du coup, bah c'est un bar à chat et manager, donc c'est un simulateur de bar à chat. Donc c'est très tout mignon. Tu joues le propriétaire qui hérite du terrain de où il y avait le bar à chat de sa grand-mère, et du coup, bah elle ouvre son propre bar à chat. Donc c'est un monde un petit peu fantastique, ou avec des sorcières, des choses comme ça. Et donc t'as plusieurs types de personnages qui peuvent venir dans ton bar à chat et qui te rapportent des ressources différentes qui te permettent de décorer ton bar à chat, d'acheter des griffoirs, des litières, voilà. Donc c'est un petit jeu kawaii. J'ai joué quelques heures. Ça n'a pas grand intérêt. C'est juste très mignon, et ça change, on va dire, des simulations habituelles. Mais c'est pas c'est pas extraordinaire. Mais si vous aimez bien les bars à chats, si vous aimez bien les petits jeux de gestion, tu vois, tout à l'heure quand tu disais quand tu t'as fait la transition entre Stray et les jeux qu'on allait tester, j'ai cru que du coup t'allais parler de 4 cafés manager. Je m'attendais.
Ouais,
pas.
C'est vrai que j'ai commencé par Inside.
Il y a 4 cafés manager.
Oui. Ouais, c'est vrai qu'il y avait une logique. Bah, disons que tu pourrais retrouver le chat de Stray une fois qu'il s'est échappé du monde et qu'il a envie qu'il a envie de respirer un peu, hop, il va manger, il va boire un petit chocolat chaud au 4 Café Manager.
Quoi. Donc voilà, c'est tout d'accord, mignon, ok. Pas très prise de tête. T'as une petite mécanique où tu dois attirer les chats errants qui ont tous leur caractère et leurs compétences pour séduire ta clientèle composée au choix de hipsters, de pêcheurs et de sorcières, tu vois, comme quoi c'est vraiment inclusif. Quoi.
D'accord. Excellent. Prends-en de la graine, Rockstar. Ok, d'accord. Et là, je suis en train de voir sur la fiche Steam que donc c'est édité par Freedom Games, qui ont aussi fait un jeu qui s'appelle, attention, qui s'appelle, attendez, je l'ai plus sous le nom, qui s'appelle To the Rescue, qui est un jeu où on gère un refuge pour chiens. Ils ont vraiment quelque chose avec les animaux de compagnie. Hein, c'est leur délire, quoi. Effectivement.
Merci beaucoup. Donc, voilà.
PC et Switch, ok, donc Inside, Donner une Bermuda, 4 Café Manager, effectivement. Alors, avant de passer la parole à Daniel, moi je vais faire une petite transition, parce que là on a parlé de deux jeux très feel-good, très colorés, très voilà, très mignons, un peu gnangnan, hein, sans doute, hein. Mais moi je vais un peu plomber dans le blanc, parce que je voulais vous parler de Madison un petit peu. Je sais pas si vous avez entendu parler de Madison, Eska et Dani.
La danse, mais c'est tout.
Voilà, ce n'est pas un simulateur de Madison. Il y a rien, ça n'a rien à voir avec ça. Madison, alors, je vous préviens tout de suite, ça va être un petit peu plus loin ce que je vais vous raconter. Madison, dans l'histoire du jeu, c'est une femme qui a été arrêtée par la police lors d'un fait divers. Alors, c'est fictif, bien entendu, puisqu'elle a, elle a tout simplement tué et démembré les membres de sa famille.
Donc, pour c'est les personnages hystériques, ils savent mettre des femmes. Il n'y a pas de problème.
Et en fait, nous, on se réveille, en fait, on est dans ce jeu, donc, qui est absolument feel good. On se réveille dans une espèce de pièce où on est enfermé, on s'est fait enfermer après par son père, et on est un jeune homme qui n'a absolument aucun souvenir, aucune mémoire, et on se met à explorer une maison qui est très probablement une maison hantée, et qui est, tu comprends que c'était l'ancienne maison de ce personnage Madison. Et c'est affreux dans le sens où on est dans un jeu d'horreur, un pur jeu d'horreur, et moi c'est un truc que j'adore, hein, je vais pas vous mentir. Je sais pas si vous vous rappelez d'un jeu qui s'appelle Visage, qui est sorti il y a un an à peu près de ça.
Non.
Qui était un jeu d'exploration. En fait, c'est un jeu d'exploration à la première personne d'une maison. Et en fait, ce concept, ce style de jeu-là vient surtout de la fameuse démo de Kojima qui s'appelait Pity. Vous vous souvenez de Pity qui était sorti sur PS4, qui était un jeu où t'explorais en boucle trois couloirs, mais c'était terrifiant, mais vraiment terrifiant. Mais là, en fait, c'est ça, en fait.
Je regarde les images, là, ça a l'air affreux.
Ouais, on parle d'Inside comme étant stressant et anxiogène.
C'est les Polly Pocket, c'est rien à voir. Si vraiment, là, attention, je le recommande vraiment à ceux qui sont vraiment amateurs de ce style de jeu, hein, c'est pas pour tout le monde, parce que déjà c'est hyper plombant, parce que c'est méga stressant. Et en fait, on va explorer cette maison, et très rapidement on comprend qu'il y a une sorte de rituel démoniaque qui est en cours, enfin, de possession qui est en cours, etc. Et toi, t'es un peu une espèce de pantin autour de ça, quoi. T'essayes de t'en sortir. Et c'est même pas une arme d'ailleurs, t'as un accessoire que t'as avec toi qui est un vieil appareil photo qui est un Polaroid, et donc tu vas prendre régulièrement des photos de certains endroits de la maison qui vont déclencher des événements qui vont te permettre de continuer dans l'histoire. Et aussi, et c'est là que c'est particulièrement stressant, tu n'as pas de lampe dans le jeu, et régulièrement tu vas te retrouver dans le noir complet ou dans la pénombre, et la seule façon de progresser, c'est de prendre des photos avec le flash pour voir un peu où tu vas.
C'est un peu comme Outlast, alors, si tu avais joué dans Deep Blue.
Un petit peu comme Outlast, sauf que la mécanique est un peu moins poussée qu'Outlast par rapport à la caméra. Mais oui, on est dans ce style de jeu. Là, je pense que ça se passe dans les années 70-80. Il y a un côté un petit peu rétro. Et effectivement, étant donné que ta seule lumière, c'est ce flash, bah, régulièrement, quand tu vas prendre une photo avec un flash qui va éclairer ce que tu vois devant toi, il va y avoir une saloperie qui va te sauter à la tronche.
Il vaut mieux pas prendre, en fait, de photos avec le flash.
Voilà, moi ça m'arrivait souvent quand même de jouer donc à la première personne, de prendre une photo et de regarder l'écran un petit peu en biais, tu vois, pour être sûr de pas avoir trop peur de ce que je vais voir.
Moi, j'ai tendance à retirer mon casque quand j'ai peur dans un jeu. Je sais pas vous.
Alors, en plus, celui-là, en termes de sound design, il est particulièrement réussi parce que tu passes ton temps à explorer une maison. Donc, t'as constamment des craquements, des bruits de portes qui claquent, des petits chuchotements de temps en temps à ton oreille que t'entends, tu sais, comme si quelqu'un te parlait, tu te retournes, évidemment, il n'y a rien. Et enfin, voilà. Mais, alors, c'est pas un jeu qui est parfait. Moi globalement, j'aime bien le jeu, mais je trouve qu'il y a des trucs un peu, déjà, par exemple, l'horreur, enfin, la peur vient essentiellement des jumpscares. Donc ce que je vous ai dit, hein, des machins qui vont te sauter à la tronche, et ça, au bout d'un moment, c'est un peu chiant, en fait. J'avais envie d'une autre mécanique pour la peur, et il y a beaucoup d'énigmes qui sont en fait, c'est un jeu d'exploration avant tout, et il y a beaucoup d'énigmes qui sont parfois un peu tordues, un peu trop compliquées pour le bien du jeu, où il faut faire des calculs, il faut faire, bon, si vous aimez vous prendre la tête, vous allez apprécier. Moi, c'est vrai qu'au bout d'un moment, assez régulièrement, j'allais voir la soluce, parce que j'avais pas envie de buter pendant 30 minutes sur une énigme juste pour pouvoir progresser. Ceci étant dit, voilà, si vous aimez les jeux d'horreur, les jeux d'horreur purs, notamment à la première personne, que vous aimez Outlast, que vous aimez Visage, que vous aimez ce genre de choses, c'est aussi un premier jeu comme Stray. Je le conseille parce que c'est vraiment plutôt intéressant. Et voilà, après, il faut savoir où vous mettez les pieds, effectivement. Si vous êtes un tout petit peu cardiaque et si vous supportez pas, effectivement, la moindre tension dans un jeu vidéo, il faut surtout pas y aller, quoi. C'est une très mauvaise idée. Donc, je sais pas d'ailleurs, vous, c'est pas trop votre thèse de thèse.
J'ai fait beaucoup de jeux d'horreur. J'aimais bien et j'ai adoré tous les Resident Evil, Silent Hill à l'époque où ça existait encore, etc. Donc, j'aime un peu moins en fait le genre de jeu où finalement tu fais que survivre et t'as pas de moyen de défendre, type Outlast ou. Mais j'ai eu des poussées d'adrénaline terribles dans Outlast. Hein, je ne te le cacherai pas.
Tu m'étonnes.
Donc oui, peut-être que j'essaierai.
C'est encore une fois. Après voilà, faut aimer les jeux où tu vas faire beaucoup d'aller-retour parce que il faut prendre des objets. C'est pas ce qu'est l'aventure en fait dans la progression. Mm-hmm. C'est très peu un jeu d'action. Il y a pas de combat, il y a pas de choses comme ça quoi. Mais il y a une ambiance qui est assez réussie. Donc Escarina, non, par contre c'est pas trop.
Je suis en PLS rien qu'à voir les vidéos et les photos depuis tout à l'heure, mais c'est affreux. Alors tu vois, je suis assez cliente des films d'horreur, j'aime bien ça. Mais par contre, les jeux, à partir du moment où c'est moi qui dois m'échapper, quoi, c'est plus possible. Mais enfin, pour moi, c'était ridicule. Ça atteint un niveau où même dans Stray, hein, j'ai eu des moments où tu te fais courser là par les petites bêtes, où j'ai retiré le casque pour me calmer parce que je me disais, alors cette scène-là, on va la faire sans le casque, ça va mieux se passer. Donc non, en streaming, tu vois, peut-être pour rigoler, pour voir les autres flipper, mais non, je suis incapable.
Je comprends, hein, mais c'est vrai que même moi, des fois, il y a ce genre de jeu par moment. Bon, je vais faire des petites sessions parce que ça peut être assez éprouvant pour les nerfs de jouer à ce genre de jeu, même si c'est encore une fois comme toi, comme toi, Dani, je vois un culte pour Silent Hill, par exemple. Mais Silent Hill, c'est une peur assez différente.
C'est donc, ça.
J'ai un souvenir d'un jeu, c'était Vampire. Alors le vieux RPG qui remonte à il y a plus de 15 ans. Il y avait une scène comme ça dans une maison hantée.
Dans Bloodline.
Dans Bloodline, et je n'avais pas pu aller au bout de la quête ou je sais plus comment j'avais. Mais enfin, c'était impossible. Et c'était la première fois que j'avais une expérience un peu complète comme ça, un peu forcée sur ce genre de. Ouais. Et non, c'est pas possible.
Oui, effectivement, la quête de la maison hantée dans Bloodline était restée dans la mémoire parce qu'elle était. Elle était en termes de mise en scène, elle était vraiment, vraiment incroyable. C'était fou pour l'époque. Donc Madison, hein, je le conseille vraiment à un public averti et vraiment très amateur de jeux d'horreur, ça peut le faire. Daniel, est-ce que tu veux me remonter le moral avec soit Live Alive ou soit River City Saga Three Kingdoms, c'est ça le nom complet?
Je vais commencer par River City, c'est... Three Kingdoms vient d'être lancé, donc c'est un remake ou un remaster d'un vieux jeu de baston des 80s ou 90s. C'est Kunio-kun, c'est toute la série des jeux de baston de l'époque où tu contrôles le bad guy qui va sauver sa fiancée. Et en fait, Three Kingdoms venant de sortir, ça m'a rappelé que je voulais parler surtout de River City Girls, qui est sorti il y a un peu plus longtemps. Et en fait, j'ai découvert cette année quand il est sorti sur PS5. Je crois que c'était en février ou en mars, je me souviens plus exactement. Et en fait, River City Girls était un excellent moment de fun. Donc, c'est un jeu de baston, type 80s, où tu vas chercher sauver des gens. Donc, en gros, tu joues en coop, en local, une à deux filles qui sont des lycéennes japonaises. Elles cherchent leur petit copain qui... ont disparu, qui ont été kidnappés, et donc pour une fois c'est vraiment l'opposé du cliché habituel où tu as sur ta petite copine qui a été exactement. Donc déjà c'est assez plaisant de ce côté-là, et en plus ils ont réussi en fait au niveau graphisme, au niveau ambiance, au niveau bande son, au niveau dialogue entre les personnages, etc., parce que maintenant il y a une histoire, le jeu est extrêmement plaisant en fait de bout en bout. Et donc j'y ai joué avec ma compagne, qui même si elle était pas très très jeu de baston, combat de rue, des 80s, etc., parce que c'est pas trop son truc, elle a adoré le jeu à tel point qu'on a quand même platiné River City Girls sur PlayStation 5, et elle attend de pied ferme le 2 qui est prévu plus tard dans l'été. Donc je recommande vivement pour ceux qui aiment les jeux de baston en coop, en local. Il y a plein de trucs à faire et le jeu est vraiment super sympa.
La classe.
Ouais, c'est joli comme tout. Hein. Je suis en train de regarder, effectivement. Alors, j'ai pas fait gaffe, mais c'est WayForward qui développe. Donc, c'est un studio qui est super connu parce qu'ils ont fait beaucoup de trucs en 2D, notamment le remake de DuckTales, c'était eux, etc. Et Shantae aussi, la série des Shantae. Et c'est super joli. Enfin, ça,
il est magnifique. Il est vraiment très sympa. Je recommande. Donc, si vous avez l'occasion d'y jouer et que vous aimez ce genre de jeu ou pas, même, c'est probablement entre 10 et 15 heures de fun.
Parce que pas mal pour habiter, c'est vachement bien pour habiter Zemmour.
Parce qu'il y a pas mal de side quests et de trucs à faire en plus, et on peut débloquer d'autres personnages plus tard dans l'aventure. Donc, il est assez riche. C'est pas comme Double Dragon version arcade que tu termines en une heure maximum si tu meurs toutes les 5 secondes.
Et donc ça, par contre, c'est River City Girls, c'est pas River City Saga Three Kingdoms.
Voilà.
C'est autre chose.
Et je profite de la sortie de River City Saga Three Kingdoms pour rebondir dessus. C'est River City Saga Three Kingdoms est un peu plus old school.
C'est le même univers, c'est quoi? C'est lié?
Alors, c'est l'histoire des trois royaumes, donc c'est plutôt une ambiance médiévale de Chine. Et en fait, on joue les héros de River City. Donc c'est Kunio et les autres personnages qu'on retrouvera dans la plupart des jeux River City, mais cette fois dans une ambiance des trois royaumes, de la Chine, etc., avec des aspects un peu plus jeu de rôle. Donc on peut équiper du stuff, on peut à chaque passage de niveau augmenter certaines caractéristiques physiques des personnages, et aussi c'est du coop en local. Par contre, il fait un peu plus vieillot, je trouve, même s'il a été remis au goût du jour par rapport à River City Girls. Donc si vous avez le choix entre les deux, commencez par River City Girls. Si vous avez adoré River City Girls, jetez un coup d'œil sur Three Kingdoms. Il est sympa, mais moins remis au goût du jour, disons.
Ah bon, ouais, effectivement. Et donc, c'est sorti sur. Je vois, là, il est sur Steam, hein, ça coûte 30 euros. Et ouais, c'est pas du tout un beat'em all, effectivement, là. C'est plus une sorte de RPG light, j'ai l'impression.
C'est un beat'em all, avec de légers éléments de RPG.
D'accord, ok. Donc River City Saga, Three Kingdoms. Et pour finir, effectivement, donc toi, là, t'es très en mode rétro là, toi, dans les recommandations, néo rétro en tout cas, puisque donc Live Alive, c'est le remake d'un vieux RPG NES, c'est ça, si je dis pas de bêtises.
Qui était jamais sorti en fait, en plus en Occident, donc jamais traduit. Et pourquoi je l'ai mis dans la liste? Alors déjà, évidemment, il est sorti il y a moins d'une semaine, hein, donc je l'ai pas terminé, que j'aime beaucoup en fait dans ce JRPG, c'est deux choses. Premièrement, en termes d'ambiance et de graphisme, c'est la mode un peu des remasters de DHD, des vieilleries. Donc un peu au niveau ambiance, graphisme, etc. C'est si vous avez essayé Octopath sur Switch et peut-être même sur Steam depuis peu, je crois, c'est un peu le même genre de remise à niveau de vieux jeux
c'est 2D qu'on avait à l'époque. HD.
Voilà,
c'est le fameux moteur HD2D qui est utilisé récemment aussi dans Triangle Strategy.
Et il y aura un Dragon Quest aussi, je crois, qui va prendre un peu le même moteur. Donc ça permet d'avoir un bon équilibre. Et voilà, moi j'adore. Et ça permet de conserver cette ambiance 2D que j'affectionne particulièrement, tout en le rendant quand même plus accessible. Et la deuxième chose que j'apprécie, en fait, c'est... également que, selon les reviews, le jeu dure entre 15 et 20 heures. Et donc, j'ai pas envie de mettre 80 heures dans un JRPG, quelle que soit sa qualité. Et donc, voilà pourquoi je le mentionne dans ma liste. Excusez-moi, on frappe à la porte, je m'absente une demi-seconde.
Je
désolé.
Écoute, moi, je vais en profiter pour terminer ces recos. Enfin, ces recos, oui, c'est juste du moment. On parle rapidement d'un jeu d'une finesse absolument incroyable qui s'appelle Sniper Elite 5. donc, rien que le nom, ça pourrait être tout à fait un DTV, un nanar direct ou vidéo avec Steven Seagal. Mais non, en fait, c'est fini. Mine de rien, c'est quand même le cinquième épisode d'une série qui fonctionne plutôt bien. C'est un jeu développé par Rebellion. Et c'est plutôt une bonne surprise en fait. Moi, c'est le premier que je fais de la série. Et en fait, Sniper Elite, c'est quoi? C'est tu incarnes donc, sans surprise, un sniper qui est un soldat, et ça se passe à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et là, ce cinquième épisode se passe en France, donc en plus ce qui est très sympa, parce que du coup tu retrouves la campagne française et notamment il y a un vrai travail. Enfin non, je crée un peu les étapes. Ce qui est intéressant, c'est que le jeu est divisé en plein de missions. Il y a 10 missions en tout, et chaque mission en fait est une très grande carte avec plein d'objectifs, objectifs principaux, objectifs secondaires, et tu fais un peu dans l'ordre que tu veux. et t'as une vraie liberté d'action. Et on pourrait le comparer en termes de gameplay, en tout cas en termes d'ouverture et de niveau, à Hitman, au dernier épisode de Hitman, puisque encore une fois, on peut aborder des situations de plein de façons différentes. Alors t'as pas le côté social, on va dire infiltration sociale que tu peux avoir dans Hitman, puisque tu peux pas te déguiser, tu peux pas aller parmi la foule, etc. Sachant que les PNJ que tu vas croiser quasiment tout le temps, ce sont juste des soldats allemands qui te tirent à vue. Donc évidemment, c'est plus basé sur l'infiltration et voilà. Et en fait, c'est un jeu extrêmement amusant à jouer parce que tu peux vraiment jouer avec toutes les mécaniques de jeu. Par exemple, tu peux très bien attirer un garde, l'assommer ou le tuer, t'as le choix. Ensuite, le piéger avec une grenade et puis attirer les camarades, attirer d'autres camarades pour pouvoir faire exploser le tout à la fin. Donc c'est très bête, mais c'est très satisfaisant, on va dire.
C'est pas forcément ça fonctionne. Où tu dois jouer furtivement, quoi, du coup.
Ben alors non, justement, c'est ça qui est marrant, c'est que il t'encourage quand même à jouer furtif parce que tu joues à sniper, mais franchement, déjà l'IA est quand même un peu bébête globalement. Enfin, surtout elle t'oublie rapidement. C'est-à-dire que tu peux très bien, si jamais tu te fais griller, sortir ta sulfateuse, tuer les 5-6 gardes, puis ensuite courir pour te planquer, attendre 5 minutes et hop, du coup tu repars. Voilà. Et moi j'aime bien ce genre d'infiltration là parce que j'aime pas le jeu d'infiltration trop exigeant. J'aime bien pouvoir me planter et pouvoir malgré tout balancer une grenade et fuir, tu vois. Alors je serai un très mauvais agent secret, je pense, dans la vraie vie, mais voilà. Et notamment, t'as un niveau, c'est le niveau 3, je crois, qui est une reproduction du Mont Saint-Michel. Et bah franchement, c'est ultra bien fait. C'est pas officiellement le Mont Saint-Michel, parce que doit y avoir des questions de roi, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas le Mont Saint-Michel, mais c'est vraiment la même architecture. T'es sur une île avec une sorte de grande église cathédrale qui monte, qui surplombe le truc. Et du coup, ça donne un niveau ultra vertical avec plein de passages, etc. Vraiment, si vous aimez l'action infiltration avec une grande liberté d'action, c'est vraiment une bonne surprise. Et l'autre bonne surprise, c'est que c'est le jeu est dans le Game Pass, donc vous pouvez y jouer gratuitement, sans surcoût si vous avez le Game Pass, et franchement c'est bien. Alors je saurais pas dire si c'est par rapport aux précédents épisodes que ça vaut, puisque c'est le premier que je fais. J'imagine que si vous avez déjà fait les 4, vous savez, vous serez en terrain ultra connu, mais moi pour un premier épisode de la série, franchement ça m'a donné envie de découvrir les précédents jeux. Donc bonne petite surprise, Sniper Elite 5, donc dispo sur console, sur PC et dans le Game Pass si vous êtes abonné chez du côté de la Xbox et du PC aussi.
Donc ton objectif, voilà, c'est de tuer Hitler à la fin.
Alors non, ça va pas aussi loin, je pense. Alors a priori non, c'est pas Wolfenstein, c'est pas Wolfenstein non plus. C'est
assez. Il est Wolfenstein, c'est une honte.
D'ailleurs, en plus l'objectif c'est pas forcément de tuer Hitler dans Wolfenstein, mais si, parce que t'as méca Hitler. Si on part sur les vieux Wolfenstein, effectivement t'avais ça. Mais surtout non. Alors en termes d'écriture, en termes d'incarnation, c'est quand même très nanar. Hein, ça va pas très loin. On voit le scénario, je m'en souviens à peine. Hein, c'est vraiment moi, j'y joue vraiment pas pour ça, quoi.
Pour
le côté bac à sable et expérimental. Et voilà, et vous savez, c'est ce jeu-là où à chaque fois que tu vas tirer, enfin pas à chaque fois mais très régulièrement, t'as un ralenti sur la balle et t'as un peu comme dans Mortal Kombat, t'as la zone du corps qui est touchée que tu vois en espèce de rayon X, tu sais.
Oui.
Donc c'est très gore et très con, mais c'est d'autant plus satisfaisant, tu vois. Donc voilà, quoi. C'est assez rigolo. Donc Sniper Elite 5, je le conseille pour pareil si vous êtes en manque d'action infiltration assez à la cool, tu vois. Voilà, à la cool. Donc Daniel, tu es revenu, c'est bon.
Oui.
Bah, t'as loupé le meilleur, okay, de l'émission. C'est.
D'ailleurs, oh bah, ça a pris à peu près 10 secondes, donc j'ai tout entendu. Donc tu peux me poser. Vas-y, j'ai écouté.
C'est une série que vous connaissiez déjà, Sniper Elite, ou vous n'y avez jamais touché?
Moi j'en avais entendu parler, encore une fois désolé, je fais de la pub de façon involontaire. Dans Super Gamerside, on avait un des chroniqueurs, oui, de l'équipe qui est justement un grand fan de la saga Hitman, qui avait joué et qui disait qu'il avait passé plutôt un bon moment, et il avait un retour similaire.
Ouais, c'est pas extraordinaire, mais tu passes un bon moment. C'est voilà, c'est bourré d'idées de gameplay que t'as déjà vu ailleurs, mais ça fonctionne bien. C'est joli comme tout, tu t'amuses bien. Voilà, c'est sans prétention, en même temps ça offre exactement ce que t'attends d'un jeu de ce type, quoi. Donc voilà.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com.
Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Bah écoutez, on va terminer cette émission en faisant notre petit tour d'actu rapide hein, des brèves plus ou moins brèves. Hein, donc interrompez-moi si vous voulez, si vous avez quelque chose à dire. Donc c'est vraiment le tour d'actu de ces derniers jours. Premièrement, Capcom. Capcom a des résultats financiers assez mitigés, on va dire, par rapport à l'année dernière. Donc sur le premier quart de son exercice fiscal, ils font quand même moins 50% par rapport à l'année dernière. Mais cela dit, l'année dernière, ils avaient Resident Evil Village et Monster Hunter Rise, qui étaient vraiment les deux porte-étendards qui les ont largement soutenus. Par contre, ils sont ultra confiants pour la fin de l'exercice fiscal, puisque on rappelle qu'ils ont le remake de Resident Evil 4 qui sort en mars, et ils disent qu'il y a un autre jeu majeur qui va sortir avant le printemps 2023. Ils le citent pas, mais il y a quand même de grandes chances que ce soit Street Fighter 6, pour peu qu'ils nous balancent un Monster Hunter quelque chose comme ça. Voilà, donc, et en fait, Capcom prévoit de faire sa meilleure année, encore une fois, ever, avec, du coup, un bénéfice opérationnel de 344 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 859 millions d'euros, ce qui est plutôt pas mal. Donc, Capcom va très bien, hein, et Capcom se repose sur des licences très fortes et ça lui réussit plutôt bien. Donc voilà, tant mieux pour eux. L'autre info, alors là, je pense que Danny va forcément avoir un truc à dire, c'est que Wrath of the Lich King arrive dans World of Warcraft Classic. Donc après Burning Crusade, hein, c'était la deuxième extension, Dani, je me trompe pas.
C'est ça, hein. C'est la deuxième extension, c'est celle qui a attiré, je crois, le plus de joueurs dans World of Warcraft.
C'est une des plus appréciées, c'est une des préférées des gens.
Probablement la plus appréciée, peut-être avec Légion, mais bon, le jeu a quand même beaucoup perdu ta superbe ensuite, et du nombre de joueurs en fait qui étaient connectés en même temps, alors que dans Votlek, c'était vraiment l'apogée de ce qu'il y avait d'en haut, et en termes d'innovation, de gameplay, de changement, etc., c'était un programme majeur par rapport à Burning Crusade et Vanilla.
Ouais, et du coup ça sort le 26 septembre dans WoW Classic, donc est-ce que toi tu vas te mettre dedans, tu vas craquer ou pas?
Je ne pense pas, parce que j'ai retourné dans tous les sens à l'époque, mais vraiment ouais. Hein, dans tous les sens, donc je ne pense pas, mais c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de jouer à travers cette expansion dans sa version d'origine, je pense que ça vaut vraiment le coup.
Ça va dans le sens de ce qu'ils font là, ils sont en train de citer toute leur belle extension, donc on aura c'est quoi, c'est Légion qui est venu après, je sais plus.
Après non, c'est Légion, Cataclysme. C'est après.
Cataclysme, voilà, c'est Cataclysme.
Ensuite il y a eu Pandaria, après Draenor et Légion après Draenor. Ouais. Donc ouais, il y a quand même le temps de retourner à Légion, mais Wrath of the Lich King aussi, c'est l'histoire du méchant, hein, probablement le plus mythique de l'univers de Warcraft, donc c'est sympa.
Effectivement. Autre info, on a des grosses rumeurs assez crédibles, hein, qui de la part de Jeff Grubb, qu'un jeu Black Panther serait en préparation. Alors un nouveau jeu Marvel, et qui serait d'un studio, un éditeur inédit dans cet univers, puisque ce serait Electronic Arts qui serait en charge de développer un jeu Black Panther avec ce dont on apprend, une formule purement solo et un titre qui s'inspirerait plus du Spider-Man de Insomniac, avec du solo sans gamins de service, etc. Contrairement à ce qu'a fait Square Enix avec Avengers. Donc voilà, on aurait un Black Panther en monde ouvert qui va, étant donné qu'on rappelle, il va y avoir le Black Panther, la suite de Black Panther qui va sortir au cinéma peut-être l'année prochaine, je me souviens plus, qui s'appelle Wakanda Forever. Donc à suivre, voilà, un jeu Black Panther, je sais pas si vous, ça vous inspire pas du tout, si je passe à autre chose, vous me le dites.
Moi, ouais, c'est un film que j'avais bien aimé. C'est un univers que je connaissais pas via les comics avant de le voir en film. Je suis toujours un petit peu embêtée parce que j'ai l'impression qu'il surfe un peu sur la mort de... C'était quoi le nom de l'acteur Chadwick
Boseman.
Ouais. Je suis peut-être mauvais esprit en disant ça, hein, mais...
Bah. Après, disons que le Black Panther, l'univers et le personnage survit à Boseman, c'est ce qui est logique puisque voilà, c'est un personnage qui existe depuis très longtemps. Il faut à un moment donné pouvoir passer outre, mais effectivement, je sais pas dans quelle mesure.
Pourquoi plutôt faire un jeu sur Black Panther que sur Doctor Strange, alors que j'ai l'impression quand même que les films Doctor Strange ont eu plus de portée au box-office que Black Panther. Bon, moi, j'ai adoré Black Panther.
Hein. Je sais pas. Black Panther,
c'est cette opportunité de faire quelque chose de différent, surtout Doctor Strange. On peut tout ce qui tourne autour des dimensions, des altérations de la réalité, etc. Alors que Black Panther, finalement, honnêtement, tu remplaces le personnage de Black Panther par un Batman,
ouais.
Tu mets ça dans Arkham, puis voilà. Hein,
c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Oui, bah d'ailleurs, le studio qui a été, enfin le studio qui développerait ce jeu, c'est un studio basé à Seattle, qui est composé d'anciens de Monolith, et Monolith, on les a connus récemment pour L'Ombre du Mordor et L'Ombre de la Guerre, les jeux Seigneur des Anneaux, qui sont des mondes ouverts. Donc on voit une formule se dessiner. Là, clairement, hein, oui. Un Black Panther en monde ouvert dans le Wakanda, voilà, tu vois à peu près quel type de jeu c'est, et c'est vrai que c'est pas très original, voilà.
J'espère surtout que ce sera pas blindé de fillers pour augmenter artificiellement la durée de vie. Moi, ce qui m'avait un peu complètement déconnecté, en fait, des derniers Spider-Man, c'est, alors tu vas prendre la photo de tel pont, tu vas sauver le chat de la grand-mère qui s'est perdue dans la rue, il y a les méchants qui viennent de dévaliser le bureau de poste, il faut les attraper, alors que finalement, en termes d'histoire, ça apporte rien, et ça me déconnecte beaucoup de l'immersion en fait dans ce genre de jeu et de la qualité de l'histoire.
Ouais, il faut faire du remplissage dans ces jeux-là, quoi. Ouais, c'est ça le problème. Ouais. Donc effectivement, à voir. Un autre jeu qui lui, alors pour le coup, est beaucoup plus petit en termes d'ambition, mais tout à l'heure on parlait d'Inside comme un grand classique. Autre jeu grand classique qui sort sur mobile pour la première fois, c'est Papers, Please. Je voulais citer parce que moi, c'est un de mes jeux de ces dernières années préférés.
Fantastique.
Fantastique jeu. Hein, c'est Lucas Pope, donc un jeu développé par une personne, Lucas Pope, qui a fait plus récemment Obradine. Il sort enfin le 23 juillet sur mobile. Voilà, sur iOS. Sur iOS et sur Android aussi ou pas, oui a priori sur Android, voilà. Et donc si vous connaissez pas Papers, Please, franchement, surtout au tactile, parce qu'il était déjà sorti sur iPad et il était ultra jouable au tactile, c'est un jeu, en fait, je vous le pitch en 3 secondes, c'est vous incarnez un douanier, en fait, dans une espèce de république qu'on imagine communiste, à la frontière, en fait, d'une république, enfin en tout cas totalitaire, fictive, et tu dois, en fait, inspecter les papiers des gens qui veulent rentrer ou qui veulent sortir, et leur accorder ou non le droit de rentrer dans le pays ou de sortir du pays. Et à partir de là, il y a tout un genre de mini-jeu où tu dois retenir des informations, parce qu'évidemment à chaque jour tu as des nouvelles règles, en fait, que le gouvernement t'impose pour accepter ou non les nouveaux arrivants, et ça se complexifie à chaque fois, et c'est vraiment un super jeu.
Il y a des choix aussi à faire, c'est pas uniquement noir ou blanc, et des fois tu fais des choix assez poignants, et j'ai trouvé ça vraiment magnifiquement bien amené.
Ah oui, c'est un jeu incroyable. Donc, franchement, on sait pas combien, a priori, ça va être, le jeu va être payant, hein, mais je sais pas combien il va être vendu, mais c'est vraiment un super jeu, quoi. Attention, si vous avez un Steam Deck ou une Switch, alors c'est quand même plus probable que vous ayez une Switch ou un Steam Deck, puisqu'il y a Valve et même Nintendo qui ont mis des messages officiels en disant, vu qu'on a eu quand même eu des belles canicules ces dernières semaines, que faites gaffe si vous jouez dehors avec votre Steam Deck qui fait plus de 35 degrés, ça risque d'abîmer un peu votre machine, et notamment Valve a expliqué que le Steam Deck est conçu pour fonctionner correctement dans une température entre 0, donc ça va, ça laisse une bonne marge, et 35 degrés, donc si vous allez au ski, c'est pareil, faites attention. Et sinon,
tu joues dans la neige,
moi je suis très nul à la cour, hein. ne faites surtout pas ça c'est complètement bête, et surtout en fait ça va pas forcément abîmer ton Steam Deck, mais les performances, parce que le processeur va tellement chauffer, les performances vont être altérées puisque le processeur va baisser, et ils expliquent que la puce du Steam Deck peut fonctionner jusqu'à 100 degrés, mais 100 degrés en interne, au-delà de 100 degrés, ça va quand même abîmer un peu les composants, donc voilà. Donc peut-être éviter d'emmener votre Steam Deck à la plage et d'y jouer, ou votre Switch, hein, parce que la Switch c'est pareil, Nintendo a fait à peu près le même message. On a tendance à oublier, hein, mais les consoles, c'est des consoles portables, donc on peut les emmener partout, mais il faut faire attention à ce genre de détails, quoi. Donc voilà.
On est loin de l'époque du GBA, par exemple, où on pouvait jouer n'importe où, n'importe quand. Maintenant, c'est devenu des mini PC finalement, et on oublie que finalement la chaleur, c'est très très mauvais pour un ordinateur.
Ouais, bah surtout le Steam Deck pour le coup, qui est quasiment un PC, quoi, effectivement.
C'est ça. Avoir cette petite glace.
Oui, petite boîte à pics glaciaire, effectivement. Je ne sais pas si c'est une bonne idée non plus, mais bon, oui, on va trouver des moyens, on va trouver un moyen de jouer au Steam Deck sur la plage. Là, on va passer dans des petites news, report, retard, annulation. Hein, ce n'est pas forcément très drôle, mais on a appris donc que le jeu, alors le premier est peut-être moins important, le jeu Lord of the Rings Gollum, dont on entend parler depuis quelques temps, est repoussé de plusieurs mois, et Nacon, son éditeur, n'a pas précisé de quand. Il devait sortir en septembre, et ils ont annoncé que le jeu sera repoussé de plusieurs mois sans préciser pour le moment la date de sortie. Ils ont dit quand même bientôt ils allaient communiquer pour avoir cette date de sortie. Alors Lord of the Rings Gollum, c'est un jeu donc qui est développé depuis un petit moment. Ça va être un jeu d'infiltration, on a l'impression, avec des mécaniques un peu je sais plus comment s'appelait ce jeu d'infiltration avec où t'incarnais un gobelin là, j'ai un trou de mémoire, je sais pas si ça vous revient.
Oui.
Aidez-moi.
J'y avais un peu joué. Comment il s'appelait? C'était
Styx, Master of Shadows. Ouais.
C'est ça. Oh, bravo.
Voilà, je savais revenir comme ça. Donc voilà. Donc, faudra attendre un petit peu plus pour jouer à un jeu Seigneur des Anneaux, pour jouer à Lord of the Rings Gollum. Et l'autre news, c'est que Ubisoft, ils ont quand même pas mal de problèmes de production. Enfin, c'est un peu compliqué, quoi. J'ai l'impression que leur seul gros jeu, là, qui doit sortir bientôt, bientôt officiellement, c'est Skull and Bones, qui a enfin une existence et une date de sortie. On a appris récemment qu'ils allaient repousser largement leur jeu Avatar Frontiers sous Pandora jusqu'à a priori au minimum 2023-2024, donc ça va, si ça se trouve il va sortir en même temps que le troisième film Avatar, tu vois, à ce rythme là et on apprend aussi qu'il y a carrément deux annulations chez Ubisoft. Le jeu, moi j'avoue j'avais complètement oublié qu'il existait, Splinter Cell VR a été annulé, je sais pas si vous vous souvenez qu'il existait.
Je le savais même pas. Non,
alors vous vous souvenez de Splinter Cell ou de Splinter Cell VR?
Splinter Cell VR.
Non, je savais même pas que ça existait, moi.
Ben voilà, écoute, ils n'auraient pas dû l'annoncer parce que tout le monde a oublié son existence, c'est dommage. Splinter Cell VR, donc le jeu est purement et simplement annulé, tout comme Ghost Recon Frontline, qui était un projet de jeu Ghost Recon free to play en multijoueur avec a priori du Battle Royale, pareil, jeu annulé et alors qu'il avait carrément été en bêta fin 2021. Le remake de Splinter Cell qui lui avait été annoncé en décembre dernier est toujours au programme. Donc voilà. Donc Ubisoft un petit peu compliqué quand même j'ai l'impression sur leur planning en ce moment. Pareil, Assassin's Creed, on sait pas trop quand sortira le prochain. Voilà, c'est un peu j'ai l'impression qu'ils sont un peu embourbés dans des problèmes de planning, quoi. Donc on espère que ça va s'arranger. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, alors je sais pas si vous avez regardé, vous avez eu le temps de regarder la longue vidéo de sur The Last of Us Part 1, la présentation de gameplay. Donc le fameux remake de The Last of Us, hein, qui va sortir en septembre, une vidéo d'à peu près 10 minutes qui est assez complète, qui montre à la fois comment ils ont travaillé les graphismes, comment ils ont amélioré l'IA, comment ils ont amélioré le gameplay. Et est-ce que vous avez le temps d'y jeter un œil ou pas?
Je l'ai pas regardé, non.
Pas non plus, non.
Parce qu'en fait. Donc moi ce qui est intéressant, c'est que j'ai lu pas mal de réactions négatives sur Twitter sur cette vidéo. Plein de gens te disent ils trouvent que c'est un peu du foutage de gueule parce que ça a l'air d'être le même jeu, c'est plus un remaster qu'un remake. Alors moi je suis pas forcément d'accord sur cette vidéo. On voit clairement qu'il y a quand même un gap graphique très très poussé, et il y a pas que ça, surtout ils ont amélioré encore une fois l'IA, le feeling, etc. C'est bien. Après c'est vrai que le problème, c'est que c'est un jeu qui va être vendu 70€. Et voilà, est-ce qu'on est prêt à mettre 70€ pour un jeu qui est sorti quand même à la base sur PS3, qui est ressorti en remaster sur PS4 et qui ressort sur PS5? Voilà, là je laisse le débat ouvert, je sais pas si vous avez un avis là-dessus, mais voilà.
Moi ce que j'espère en fait, c'est que la réception, enfin quelles que soient les qualités intrinsèques du jeu d'origine, ça m'embête quand même qu'enfin le jeu est sorti en fin de vie de la PS3, il a été déjà remaster il a été refait sur PS4 en un peu plus joli, et là maintenant on va le ressortir une nouvelle fois. Donc personnellement ça m'embête. Ensuite, s'il y a une bonne réception commerciale, ça va donner un signe aussi aux différents éditeurs que finalement on peut se remettre à faire des remasters toutes les 5 minutes de jeux qui sont finalement assez récents. Donc à moins qu'il y ait quelque chose d'incroyable en termes de différence entre la version PS4 et Last of Us Part 1 remis au goût du jour, j'aurais tendance à dire j'espère qu'il va pas si bien se vendre que ça. Comme ça on laissera peut-être un peu de temps pour retravailler les jeux et s'assurer à ce qu'on apporte vraiment quelque chose de différent quand on remet au goût du jour un vieux succès.
Ouais, c'est la question. Quel est un peu l'objectif derrière cette sortie-là, à part celui de faire de l'argent, bien évidemment. Mais on dirait un peu quelqu'un qui a du mal à faire le deuil de quelque chose et qui revient toujours dessus.
Bah, c'est sûr. Bah après, pour moi, je vois ça comme un point de transition pour Naughty Dog, pour en attendant la suite. Et souvent, et ce genre de truc, ce genre de projet, ça permet aussi à des équipes B, on va dire, c'est un développeur de se faire la main avant de passer à des projets plus à plus d'ampleur, des vrais nouveaux projets, etc. Donc ça peut être bénéfique. Et encore une fois, bah, par rapport à la vidéo que j'ai vue, je trouve que vraiment il y a un travail de remake. Honnêtement, moi ça m'a super donné envie. Ça, moi, The Last of Us, c'est un jeu que j'adore, et le 1 comme le 2, et ça m'a quand même donné envie en fait de le refaire en fait dans ces conditions-là. Après, clairement, là où je trouve ça abusé, c'est le prix, quoi. C'est-à-dire que il aurait vendu 30 euros, allez, peut-être 40. Je me suis dit, ok, pourquoi pas. Tu vois, c'est comme par exemple, le remake de Demon's Souls, il me semble qu'il était un peu moins cher, mais peut-être que je dis des bêtises. Puis surtout, c'était un remake d'un ancien, un jeu beaucoup plus ancien.
C'était un des premiers jeux PS3. Donc, ouais, il y avait quand même, peut-être au moins 10 ou 15 ans de différence. Là, c'est
pas la même. Non. Et c'est ça, je suis assez d'accord que au niveau du prix, je trouve que c'est un petit peu abusé, ou alors il aurait pu faire un pack avec le 1 et le 2, tu vois, par exemple une sorte de compilation. Ouais. C'est un peu dommage. Donc à voir, ça sort très bientôt, hein, de toute façon, enfin ça sort dans 2 mois à peu près. Donc on verra la réception, comme tu dis, la réception critique et publique. Tiens, pour finir avec les annulations, les retards, etc. Là, celui-là, il est un petit peu dommage, c'est le remake de KOTOR. Donc là, on mélange report et remake. Hein. Le remake de KOTOR, donc Knights of the Republic, le fameux RPG Star Wars culte, hein, de BioWare du début des années 2000, qui est vraiment un des meilleurs jeux Star Wars. Un vrai remake, mais quand je dis un vrai remake, a priori, voilà, ils voulaient tout refaire, que ce soit au niveau du gameplay ou de la technique, avait été annoncé l'année dernière par Aspyr Studio, qui est un studio qui est plutôt spécialisé dans les portages, dans les portages divers et variés. Là, en fait, alors c'est pareil, c'est encore une fois, ça a été balancé par des insiders assez fiable, le remake serait vraiment même en pause. En fait, ils auraient perdu plusieurs des producteurs, et ils sont embourbés dans des problèmes de production, et pour le moment le développement est mis de côté. On ne sait pas du tout où ce que ça va reprendre. Moi, ça me chagrine un peu. En même temps, bon, est-ce que Aspyr Media est un studio suffisamment gros et expérimenté pour faire un remake qui avait l'air d'être très ambitieux? Donc je sais pas, je suis un peu mitigé là-dessus, quoi.
Or, c'est exactement comme toi. Moi, j'y avais pas joué à l'époque, en plus. Donc, je me disais que c'était l'occasion de, je m'y étais intéressé il y a 2-3 ans quand elle était sortie sur tablette, sur iPad, et ensuite au niveau graphisme, quand même, ça a beaucoup, beaucoup vieilli. C'est un peu rude. Et donc, je me disais que c'était l'occasion de découvrir ce classique, mais remis au goût du jour. Et là, justement, contrairement à Last of Us Part 1, je trouve que, effectivement, le jeu étant tellement ancien, que ça a beaucoup de mérite que de pouvoir le faire découvrir aux gens qui l'avaient loupé à l'époque, comme moi. Donc, je suis un peu chagriné aussi par ce retard.
Bah, peut-être que ça va être repris par quelqu'un d'autre, hein. Ce sera à voir.
J'espère.
Ouais. On verra. Et enfin, pour terminer, là, c'est un classique, mais les jeux du mois d'août pour le PS Plus, ça y est, n'oublions pas que la nouvelle offre PlayStation Plus est sortie, donc ont été annoncés. Il y a quand même des trucs sympas, notamment, le plus gros jeu, c'est Yakuza Like a Dragon, que je n'ai pas fait, mais que j'ai très envie de faire depuis le temps. Il me semble qu'il est aussi dans le Game Pass, hein, où il l'était en tout cas. Donc on a Yakuza Like a Dragon, on a Tony Hawk 1 et 2, les fameux encore des remasters, hein, mais qui sont apparemment plutôt pas mal, et Little Nightmares, donc c'est cette espèce de jeu un peu à l'inside, hein, un peu horrifique, en 2D, que tu connais, que t'avais fait, je crois, t'en avais parlé, je crois, t'avais parlé du 2, je crois, il me semble, dans l'émission, il me semble.
Non, je l'ai jamais fait.
Non. Ah, je pensais, pardon, j'ai cru que tu...
c'est ça. Qui en a parlé. Il me semble qu'elle aime bien ces jeux-là.
Ouais, c'est possible. Et en plus de ça, PlayStation a annoncé que d'ici la fin de l'année, il va y avoir 8 jeux Yakuza qui vont être disponibles dans le PlayStation Plus. Donc, il commence évidemment par le Like a Dragon, mais donc l'intégralité de la saga de Kazuma Kiryu, donc Yakuza 0, Yakuza 1, Yakuza 1, Yakuza 2, etc., jusqu'à Yakuza 6, va sortir. Donc, si vous aimez les jeux Yakuza, ou si vous voulez en tout cas vous y mettre, bah c'est peut-être le bon moment, parce que là vous allez avoir de quoi faire. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Là, à ce niveau-là, ils se mettent un peu au niveau de Xbox et du Game Pass, puisque c'était déjà le cas chez Xbox, il y avait déjà les jeux Yakuza disponibles dans le Game Pass depuis un petit moment. Donc voilà, la guerre elle est clairement lancée entre le PlayStation Plus et le Xbox Game Pass, pardon. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'actu, hein. Je pense qu'on n'a rien oublié. Je vous remercie déjà de m'avoir accompagné pour ce numéro estival. J'espère que Patrick va pas être déçu. Ça, c'est pas gagné,
on
mais
on verra. La fierté du père, hein, tu sais, c'est.
Bah, je sais, moi, j'ai très, très peur.
Pas tout le monde, il y a certains qui, tu vois, certains qui veulent tuer le père ou je sais pas. Donc, très, je suis désolé, mais.
Oui, bon.
On va régler ça sur Street Fighter 6.
Exactement, ouais, exactement. Avant de se quitter, Eska et Dani, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Je vais commencer par Dani, tiens.
Très bien. Eh ben, écoute, sur Twitter, le handle c'est @notdany, NOTDANY, très facile. Globalement, je consulte Twitter très très régulièrement, même si je suis pas très actif pour ce qui est de poster ou de relayer des news.
D'accord, très bien. Et Escarina?
Eh ben moi sur Twitter c'est Escarina_ou_8 comme disent les vieux. Et je suis aussi donc sur notre podcast qui s'appelle Super Gamerside et sur Kiss My Geek qui est donc un petit site de news et de tests geek au sens large. Voilà.
D'accord, très présent. Très bien, merci. Bah moi donc je suis J.K. Loret, Jean-Claude Barloret. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @J.K. Loret, sur jeuxvideo.com pour des sujets tech et dans le podcast ZQSD, ZQSD spécialiste du jeu PC, on va dire. Et on a enregistré un numéro il y a pas plus tard qu'avant-hier, hein, qui est pas encore sorti au moment où on enregistre, hein, mais voilà, où on parle de nos jeux de l'été. Donc on parle de Madison, on parle de Stray, on parle de Sniper Elite. Mais je vous promets, c'est pas une copie conforme de l'émission que vous venez d'écouter. Il y a aussi d'autres sujets. Il y a un peu plus d'alcool peut-être aussi autour de la table, donc ce sera différent. Écoutez, très bien, on vous remercie chères auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout et on vous dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous jeu. Salut,
à bientôt.